السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا. دونك نو سوم سو سوار سامدي 17 محرم 1434 دو ليجير correspondant au 1er décembre, bi'idhnillah ta'ala. Donc avec le livre Les Jardins des Vertueux, toujours la foi en le dernier jour, et toujours avec le hadith 60, qui, ou dans lequel on a fait yani, plusieurs cours dans le hadith 60. Mouhim, il reste deux ou trois cours dans le hadith 60, et inshallah ta'ala, on passera au hadith numéro 61. Mouhim. Donc, nous nous étions arrêtés là où le prophète, alayhi sallam, parlait de sept catégories de personnes qui, yawm al-qiyama, le jour de la résurrection, ils seront ombragés sous l'ombre du Seigneur Azza wa Jal. Le jour où il n'y aura d'ombre que l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait dit que le premier c'était l'imam. Le modèle que les gens suivent, le responsable, le gouverneur, l'imam al-adil, qui est juste. Ensuite, on avait dit que le deuxième, c'était rajulun, ou bien shabun, nasha'a fi ibadatillah. C'était le jeune qui est éduqué ou qui a grandi dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans son adoration. Et on avait dit que le troisième c'était un homme ou bien une femme, mais ici surtout un homme si ça parle de la mosquée, un homme dont yani, le cœur est disons attaché à la mosquée. Si c'est une femme, alors on va dire attaché à la salat, qui pense tout le temps à sa salat, hein, qui fait une salat et pense à la suivante. Et que la quatrième personne, c'était deux personnes qui s'aiment en Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont fait la connaissance, yani pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ne se sont pas séparés jusqu'à la mort de l'un d'eux. D'autres savants ont dit, ça veut dire aussi deux personnes qui s'aiment en Allah subhanahu wa ta'ala et qui, depuis qu'ils se rencontrent jusqu'à ce qu'ils se quittent, ne parlent que des choses qui ont rapport avec la religion. Ne parlent que des choses qui ont rapport avec le ravissement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils se rencontrent en lui et se quittent en lui. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, on va parler de la cinquième sorte. La cinquième sorte, c'est رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. Le cinquième c'est qui? C'est une personne. Ici il a dit c'est un homme. Mais ça peut être aussi le contraire. Ça peut être une femme. Donc il a dit un homme dont une femme. Une femme yani, qui cherche le haram. Qui cherche le haram. Là, disons, a voulu qu'il fasse avec elle le haram. Et cette femme n'est pas une femme normale, mais elle a deux attributs. La première, ou alors deux qualités. La première, c'est une femme de haut statut, sale, ou bien familiale, au statut. Et la deuxième, c'est une femme ayant comme qualité la beauté. Ayant comme qualité la beauté. Il lui a répondu, j'ai peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai peur d'Allah azawajal. Le Cheikh Rahimahullah dit, Cheikh Ibn Uthaymeen Rahimahullah dit, cet homme, il a dit, Rajulun qadirun al jima. C'est un homme qui a quoi? Qui yani, a la capacité de faire le haram. Ce n'est pas quelqu'un de malade. Il a dit non car il est malade. Mais c'est quelqu'un qui, comme tous les hommes, a la tentation des femmes et peut, s'il voulait, il aurait pu faire ce qu'elle lui a demandé. Il a dit, donc, il a dit, cet homme-là, la femme ou bien une femme, lui a demandé qu'il fasse avec elle la fornication. Il a dit, il a dit, pourtant, elle a un haut statut social ou bien familial, et elle est connue pour être belle. Il a dit, وهي جميلة دعت إلى نفسها في مكان خال لا يطلع عليهما أحد. Cette femme lui a demandé de faire le haram dans un endroit isolé. Dans un endroit isolé où personne ne peut les voir. Où personne ne peut les voir. وهو فيه شهوة ويحب النساء. Et cet homme-là a des tentations. C'est quelqu'un qui a la tentation, yani des femmes. وَيُحِبُّ النِّسَاءَ. Et c'est quelqu'un qui aime les femmes. Aime les femmes dans le sens du halal. لَكِنَّهُ قَالْ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ. Mais il a répondu, j'ai peur d'Allah. Mais il a répondu, j'ai peur d'Allah. Le shir dit, لَمْ يَمْنَعُ مِنْ فِعْلِ هَذَا إِلَّا خَوْفُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Il a dit, ne l'empêcher de faire ce que lui a demandé la femme que la peur d'Allah Azzawajal. Ne l'a empêché de faire ce que lui a demandé la femme que la peur d'Allah Azzawajal. Le shir dit, Fandor ila hadha ar-rajul. Il a dit, regarde cet homme-là, regarde. Il médite sur son cas. Médite sur son cas. Al-muqtadi mawjoud. Li'annahu qadirun ala al-jima. Le shir dit, les causes, bien disons, les conditions, sont là. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que c'est quelqu'un qui peut faire cette chose. Comme on a dit tout à l'heure, ce n'est pas quelqu'un de malade, mais c'est quelqu'un qui peut faire cette chose. Il a dit, et la femme est belle, et elle a un haut statut, et l'endroit est isolé, mais il a dit, il y a un empêchement qui l'a empêché, et cet empêchement est plus fort que tout ce qu'on a cité maintenant comme conditions réunies et toutes les circonstances qui sont réunies. Il a dit, mais il y a un empêchement, un grand empêchement, plus fort que tout cela. Il a dit, c'est quoi? C'est la crainte d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'il a répondu, il a dit, Inni akhafullah. Inni akhafullah. J'ajoute ici que lorsque cette femme a exhorté cet homme à ce qu'il fasse avec elle la fornication et qu'il avait répondu que il craignait le Seigneur, il craignait son Seigneur. Nous avons divergé. Est-ce que il lui dit ça? Il lui fait entendre la phrase, il lui dit j'ai peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien il le dit en lui-même, c'est-à-dire il le dit entre ses lèvres. Ou bien dans son cœur, yani juste pour se rappeler, pour qu'il se rappelle et qu'il fasse le haram. Certains ont dit, yani il dit ça, yani comment, et pour lui faire entendre, et d'autres ont dit, il dit ça entre ses lèvres, ou bien dans son cœur. Al-Muhim, ceux qui ont dit, il dit ça pour qu'elle entende, il lui dit que peut-être, ça sera aussi une exhortation pour elle, pour qu'elle ait peur, car elle est dans la distraction, elle est dans le rafla. C'est pas ce qui se passe, mais quand elle entend la phrase Inni akhafullah, peut-être que, yani, elle aussi, elle sera quoi? Il va dire, subhanallah, un homme qui, on lui propose et il dit j'ai peur d'Allah, moi aussi je devrais avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont dit, donc il dit sa phrase, il dit la phrase c'est mieux, voilà ce qu'ils ont cité comme dalil. Et je crois que c'est mieux que de dire ça en soi-même. C'est peut-être pour lui faire peur à elle aussi, peut-être que yani on va être, cet homme va être la cause pour l'éloigner, inshallah ta'ala, du haram. Et ça me rappelle aussi Maryam, qu'est-ce qu'elle a dit dans le Coran? Inni a'oudu birrahmani minka in kunta taqiya. Inni a'oudu birrahmani minka in kunta taqiya. Je me réfugie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala si tu es quelqu'un qui se cache, yani venu sous une autre forme. Elle lui a dit je me réfugie auprès d'Allah. Elle a dit fort. Hein? Pourquoi? In kunta taqiya. In kunta taqiya ici, c'est quelqu'un qui craint d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui craint. Je me réfugie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soit tu es quelqu'un qui craint Allah, donc toi aussi, tu devrais te réfugier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh a dit, cet homme a dit, inni akhafullah. Cet homme a dit, j'ai peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma qala inni la ashtahi nisa. Par contre, il n'a pas dit, je n'aime pas les femmes. Il n'a pas dit, je ne désire pas les femmes. وَمَا قَالَ لَسْتِ بِجَمِيلًا ni il a dit ni tu n'es pas belle ni il a dit tu n'es pas belle وَمَا قَالَ أَنْتِ مِنْ أَسَفِ النِّسَاءِ ni il a dit toi par exemple tu n'es pas d'une grande famille non وَمَا قَالَ إِنَّ حَوْلَنَا حَدًا ni il a dit il y a des gens autour de nous mais il a dit إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ mais il a dit moi j'ai peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh a dit, فَهَذَا مِمَّنْ يُظِلُّهُ اللَّهُ يَوْمْ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ. Le cheikh a dit, celui-là, une personne qui dit comme ça, c'est une personne que Allah subhanahu wa ta'ala va la mettre sous son ombre يَوْمُ الْقِيَامَةِ. Le jour où il n'y aura d'ombre que son ombre, Azza wa Jal. Les savants ont dit, ça s'applique à une femme. Ce n'est pas seulement un homme, mais ça s'applique aussi à une femme. Si jamais une femme, par exemple, c'est un homme qui l'exhorte à ce qu'elle fasse le haram. Et cet homme, par exemple, il est riche, ou bien il a un haut statut, comme ministre ou président de la République, ou roi, ou je ne sais pas. Non. Et en plus de cela, il est beau. Et qu'elle lui dise, j'ai peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui m'empêche, c'est la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je laisse ça, je délaisse ça pour Allah Azza wa Jal. Ça veut dire dans son cœur, ça veut dire que ce n'est pas que yani, il y a autre chose qui la retient. Mais c'est la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants disent, celle-là sera ombragée le jour de la résurrection dans l'ombre, sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit. Le cheikh dit, rahimahullah, et médite. Et médite, une seconde. Et médite, le cheikh dit, et médite sur le cas. Sur le cas de Youssouf, le fils de Yaqub. Le fils de Yaqub, le fils de Ishaq. Le fils de Ibrahim. Alayhim salatu salam. Il a dit, Ashaqatuhum, Imra'atul Aziz, Malik au Misr. Il a dit, yani est tombée amoureuse de lui, qui? La femme de l'Aziz. Elle a fermé quoi? Elle a fermé les portes pour que personne ne puisse les voir. Waqalat haytalak. Waqalat elle lui a dit, je suis prête pour toi. Je me suis préparée pour toi. Yani tid'ouhu ila nafsiha. C'est-à-dire qu'elle l'exhortait à ce qu'il fasse avec elle le haram. Le haram. Non. Il a dit, wa kana rajulan shaban, et Youssouf était un jeune. Wa bi muqtada at-tabi'a al-bashariyya hamma bi wa hammat bi. Et d'une façon naturelle comme tous les hommes, non. Donc il a été tenté par elle. Walakin ra'a burhana rabbi wa waqa'a fi qalbihi khawfu Allah 'azza wa jalla famtana. Il a dit mais il a vu la preuve. La preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala et Non, c'est cette preuve de l'Azawajal. Il est rentré dans son cœur et il a eu peur et il s'est éloigné d'elle. Regardez lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: وراودته التي في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك. Or, Zulira, qui l'avait reçu dans sa maison, essaya de le séduire. Et elle ferma bien les portes et dit: Je suis prête pour toi. Beaucoup d'exégètes ont dit qu'elle s'appelait Zulira, même s'il n'y a rien d'authentique en cela. Il n'y a rien d'authentique, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, qui disent qu'elle s'appelait Zulira. Mais beaucoup d'exégètes et de mufassirin ont dit qu'elle s'appelait Zulayha. Al-Muhim. Qu'est-ce qu'il dit, c'est Allah Azzawajal? Elle essaya de le séduire. Et elle ferma les portes et dit: Viens, je pour toi. Qu'a-t-il répondu? Alayhi salam. Il a répondu: Ma'ad Allah. Innahu Rabbi, ahsana mathwaya. Innahu la yuflihu dhalimun. Il a répondu: Qu'Allah me protège, puisse Allah subhanahu wa ta'ala me protéger. C'est mon maître qui m'a accordé un bon asile. Vraiment, les injustes ne réussissent pas. Quand il a dit c'est mon maître, en arabe c'est Innahu Rabbi, Innahu Rabbi. Il y a une divergence entre les savants. Est-ce que Rabbi ici c'est mon seigneur ou bien Rabbi c'est mon maître, c'est-à-dire le mari de Zuleyha? La plupart et le plus juste, Inch'Allah Ta'ala, c'est mon maître ici, Rabbi. Rabbi, ça veut dire le maître de Zuleyha. Il a dit comment? Yani, il m'a accordé un asile et je vis ici chez lui, etc. Ensuite, je vais quoi? Je vais le tromper. Je vais le tromper en sa femme. Il a dit les injustes ne réussissent pas. Hein, les injustes ne réussissent pas. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Ainsi, nous avons repoussé de lui le mal et la turpitude. Il était certes un de nos serviteurs élus. Ainsi, nous avons repoussé de lui le mal et la turpitude. Il était certes un de nos serviteurs élus. Donc, vous avez remarqué que Yani, il n'a pas abdiqué, mais il a dit: Je vais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me protège. Et quand il a dit ça avec sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repoussé de lui le mal et le fahisha, et la turpitude. Et toute personne qui est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, et qui, quand elle est dans les problèmes, elle se réfugie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il lui demande secours, et lui demande secours, Allah azza wa jal exauce ses souhaits, la secours, et yani, repousse d'elle le mal et le malheur et le fahisha et toute autre chose, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Et tous deux coururent vers la porte. Coururent. Lui, il s'enfuit, et elle derrière lui. Et elle lui déchira sa tunique par derrière. Ils trouvèrent là le mari à la porte. Elle dit: Quelle serait la punition de quiconque a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux? Donc, quand ils coururent, parce que lui, il voulait s'enfuir d'elle, et elle courait derrière lui parce qu'il voulait, elle voulait qu'il fasse le haram, alors elle lui déchira sa tunique par derrière. Al-Muhim. Voilà que subitement, yani, le mari se trouvait devant la porte. Donc il se préparait à rentrer. Alors, qu'est-ce qu'elle lui dit? Quelle serait la punition? Quelle est la punition d'une personne qui veut faire du mal à ta famille? Sinon de le mettre en prison ou bien de lui donner un châtiment douloureux. Regardez, subhanallah al-azim. Donc, yani, cette femme, ou alors peut-être les femmes en général, sauf celles qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, comment qu'elles peuvent ruser? Comment qu'elles peuvent ruser? Et yani, ici, à l'entendre ici, Subhanallah l'Azim, à l'entendre ici, on aurait dit donc c'est lui le fautif, et c'est lui qui voulait faire le haram. Subhanallah l'Azim, elle donc, elle se réfugie auprès de son mari, et lui dit, yani, que doit-on faire à quelqu'un qui, quoi, qui a voulu faire du mal à ta famille? Regardez, elle lui a pas dit, qu'est-ce qu'on doit faire à quelqu'un qui a fait du mal à ta femme, ou là, qui m'a fait du mal, mais elle lui a dit, à ta famille, c'est-à-dire, yani pour qu'il soit encore plus jaloux, pour qu'il soit encore plus jaloux. Non, ce n'est pas, yani, il m'a voulu faire du mal, mais il a voulu faire du mal à ta femme et à ta famille. Donc, pour que, yani, il devienne plus jaloux, elle lui a dit, sinon la prison, ou bien un châtiment douloureux. Subhanallah l'Azim. Qu'est-ce qu'il a dit? Yusuf alayhi salam a répondu, il a dit, c'est elle qui a voulu me séduire. C'est elle qui a voulu me séduire. Et un témoin de la famille de celle-ci témoigna, si sa tunique à lui est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs, et vice-versa. Si sa tunique est déchirée par derrière, ça veut dire que c'est lui qui dit la vérité, c'est elle qui fait partie du nombre des menteurs. Regardez ici. Youssef, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est elle qui a voulu me séduire. Les savants ont dit, on prend de la quoi? On prend de la queue quand quelqu'un t'accuse. Il dit, celui-là m'a volé, ou bien il m'a fait ceci, ou bien il m'a frappé, ou bien, alors que tu l'as pas fait. Ils disent, il faut pas se taire. Car Youssef, alayhi salam, quand elle l'a accusé ici devant son mari, il s'est pas tué. Mais il a vite parlé, il a dit, c'est elle qui a voulu me séduire. Donc, quand on est accusé, si on a les moyens de se défendre, on doit parler et se défendre. Sinon quoi? Sinon, yani, le fait de se taire, ça veut dire que tu consens. Ça veut dire que tu reconnais ta faute. Sinon, tu aurais quoi? Sinon, tu aurais parlé, tu te serais défendu. Donc, quand tu te tais, ça veut dire que tu fais, yani, que tu reconnais ta faute. Non. Ensuite, yani, la femme, subhanallah l'azim, ne s'est pas suffi à cela, mais encore, qu'est-ce qu'elle a fait? Yani, elle a quoi? Elle l'a, yani, menacé de prison. Elle l'a menacé. D'ailleurs, elle a dit à son mari, elle lui a dit, yani, qu'est-ce qu'on doit faire à quelqu'un de pareil, sinon la prison ou un châtiment douloureux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Yusuf alayhi salam a dit, Rabbi, sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilayh. Wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akul min al-jahilin. Bon, ce verset je ne l'ai pas mis en français. Donc Yusuf alayhi salam a dit que, Ya Allah, pour moi la prison est mieux que ce qu'il me demande de faire. Et si jamais tu n'éloignes pas de moi, tu n'éloignes pas de moi leur ruse, Naam. Et yani, leur tentation et ce qu'elles veulent, alors c'est-à-dire les femmes en général, il a dit alors vraiment, yani, je tomberai dans, yani, dans la faute et je ferai partie des djahilines. Je ferai partie des djahilines et des ignorants. Al-Muhim, il a reconnu ou bien il a dit que la prison était mieux pour moi que de faire une chose pareille. Ensuite, c'est vrai. Naam. Quelqu'un qui va en prison, c'est mieux que quelqu'un qui fait un grand péché. C'est-à-dire, si on demandait à quelqu'un de choisir, on t'emmène en prison ou bien tu bois de l'alcool, qu'est-ce qu'il doit choisir? Il dit, d'accord, je vais en prison, je n'ai pas d'autre solution. On t'emmène en prison, forcé, et surtout si c'est la fornication, il va trouver ça yani, comme yani, une excuse, donc, une excuse valable. Donc, s'il va faire la chose, a'oudou billah. Mais celui qui a vraiment la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tout l'or du monde, il n'accepterait pas de faire le grand péché. Pour tout l'or du monde, et quitte à ce qu'il reçoive la plus grande punition. La plus grande punition, quitte à ce qu'il la reçoive, mais il n'accepte pas de faire la punition, de faire le grand péché. Bi-idhnillahi ta'ala. Il y a une règle. Il y a une règle qu'on a déjà citée une fois et que je voudrais vous citer, inshallah ta'ala, aujourd'hui, qu'on a citée déjà une fois, mais c'est pour yani comme rappel, pour comme rappel yani qu'on va citer inchallah aujourd'hui aussi. La règle dit que, en ce sens, je l'ai dit à peu près, je l'ai dit en arabe, ensuite en français. Il a wujid al-muqtadi, wa tawafarat, wa qawiyat al-himam, li fi'l al-ma'siyah, thumma taraka al-abd, kan al-ajru aziman 'inda Allah subhanahu wa ta'ala, wa aksuhu sahih. C'est-à-dire que, plus les conditions sont réunies pour faire le péché. Conditions réunies. Ensuite, la personne ne fait pas le péché, plus la rétribution, l'âme et la récompense sera vraiment grande chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et le contraire, c'est-à-dire et vice versa. Je répète, plus les causes et les circonstances, les bonnes circonstances sont réunies pour faire le grand péché. Et ensuite, la personne ne le fait pas, ça veut dire plus la rétribution et la récompense sera grande chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et vice versa. Je m'explique. En donnant un exemple. Yusuf alayhi salam, avec cette femme ici, avec Zuleika, c'était qui? Un jeune. Qui dit jeune? Dit plein de tentations. Un jeune de 16 ans, 17, 18, 19, 20, 25, plein de tentations. Non. Première condition pour faire la fornication. Donc, il a la première condition. Jeune. Deuxièmement, très beau. Quelqu'un qui est très beau, c'est déjà pour lui-même, il devient une fitna. Lui-même, il est fitna. Là où il passe, les femmes le regardent, les femmes lui font je ne sais pas quoi, avec leurs yeux, je ne sais pas quoi. El-Muhim, lui-même, il rentre dans une grande fitna. Deuxième chose. Troisième chose. Il était pas dans son pays. Il était en Égypte. Naam. Vous savez que quelqu'un, quand il est loin de son pays, il peut faire ce qu'il veut. Il sait que personne ne le connaît et personne ne peut le blâmer. Donc, il y a la troisième condition pour faire la fornication et le grand péché. Je suis loin de chez moi et quand je rentre dans mon pays, ni personne ne me connaît, et je fais la tawba entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala, je prends ma douche et c'est terminé. Quatrième condition, la femme qui lui a demandé de faire la chose était très belle. Et ensuite, comme dans le verset, comme disent aussi les exégètes, elle est rentrée dans un habit vraiment attirant. Vraiment transparent, vraiment beau, vraiment attirant. Tout ce qu'il y a de plus attirant. Ensuite, elle était très belle. Ensuite, c'est elle qui lui a demandé de faire. Ce n'est pas lui qui lui a proposé. C'est elle. Donc, les malheurs grandissent. Ensuite, non seulement elle lui a demandé, mais elle a insisté. Elle a insisté. Elle a tout préparé. Fermer les portes, tout, tout. Et ensuite, c'était son valet. Il travaillait chez son mari. Donc, il a même peur que il lui fasse des problèmes. La moindre des choses, c'est de quoi? C'est de l'arrêter du travail, de le licencier. Il va lui trouver des pépins et des excuses et l'envoyer balader. Là. Et ça s'est pas arrêté là, mais encore, elle lui a quoi? Elle l'a menacé de le faire rentrer en prison. Elle l'a menacé que s'il faisait pas cette chose, elle le rentrerait en prison. Alors, toutes les conditions, comme j'ai dit, sont réunies ici pour faire le haram et il ne l'a pas fait. Donc, je répète, c'est ça la règle que je voulais dire. Plus les conditions sont réunies pour faire le péché et le grand péché. Et tu te retiens et tu ne le fais pas pour Allah Azzawajal, plus la récompense sera grande, 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 yawm al-qiyamah. Rappelez-vous aussi, comme dans Sahih al-Bukhari, les trois personnes qui sont rentrées dans la caverne. Vous connaissez tous le hadith. Dans la caverne, et ensuite le rocher qui est tombé, qui a bloqué la sortie. L'un des trois, car les trois ont décidé de faire des douas pour que Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse une solution. L'un des trois, qu'est-ce qu'il a dit? Ya Allah, Ya Allah, tu sais que j'avais une cousine et que vraiment je l'aimais comme un homme aime une femme. Et que j'ai tout essayé avec elle pour qu'elle me laisse faire le haram, elle ne m'a pas laissé. Jusqu'au jour où elle était vraiment dans le besoin d'argent. Et elle est venue me demander, yani, que je lui prête de l'argent, alors je lui ai fait la condition qu'elle me laisse faire le haram. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais que, yani, elle était dans la contrainte et elle a accepté. Et que, quand c'était vraiment le moment de passer à l'acte intime, elle a dit quoi? Elle a dit, ittaqillah. Elle lui a dit, ittaqillah. Et ne touche cette chose que religieusement, dans le halal. C'est-à-dire, si c'est dans le mariage, d'accord, mais pas dans le haram. Il lui a dit, ittaqillah. Il a dit, ya Allah, je me suis levé et j'ai laissé les 1000 dinars. 1000 dinars en or, hein? 1000 dinars en or. Ya Allah, j'ai laissé 1000 dinars et je me suis levé. Pourquoi? Quand elle a dit, ittaqillah. Ensuite, il a dit, ya Allah, si j'ai fait ça pour toi, pour ton visage, fais-nous une solution de ce problème là où on est bloqué dans la caverne. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait une solution, comme vous savez tous le hadith. Donc ici, vous avez remarqué qu'on est toujours dans la qaïda, ce qu'on disait tout à l'heure. Toutes les conditions sont réunies. Et c'est difficile ici, par exemple, dans ce cas de l'homme de la caverne avec sa cousine, c'est vraiment difficile d'abandonner le projet à la dernière minute, où il ne restait que l'acte intime. Donc, yani, se lever et dire, moi, je me désiste, et yani, je sors de la chambre ou j'abandonne, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile, surtout, surtout, surtout pour un homme. Surtout, surtout, surtout pour un homme. Mais il a fait ça, et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a fait des doigts avec cette chose, Allah ta'ala lui a exaucé ses souhaits. Un moyen. Maintenant, on va dire vice-versa. Pourquoi j'ai dit vice-versa? Ça veut dire que maintenant, si jamais, si jamais, par exemple, il n'y a aucune cause, ni circonstance, ni quelque chose qui pousse pour faire le péché. Ensuite, quelqu'un va faire le péché, le grand péché. Ça veut dire que celui-là, son châtiment sera vraiment grand, grand et douloureux yawm al-qiyamah. C'est-à-dire exactement le contraire de la règle de tout à l'heure. La règle de tout à l'heure. Les conditions sont réunies, les tentations sont grandes pour faire le haram. Et tu ne l'as pas fait. Donc, beaucoup de récompenses. Et maintenant, le contraire. Les conditions. Naam, il n'y a aucune condition, ni excuse, ni tentation, ni rien pour faire le haram. Et toi, tu le fais. Donc, ici, là quoi? Le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala sera quoi? Sera énorme, sera énorme. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit, attendez, je le cherche ici en arabe. Une seconde. Je vais le mettre ici car je ne l'ai pas dans le programme. Regardez ce hadith. Regardez ce hadith. An Abi Dhr. An Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, d'après Abi Dhr, le compagnon, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Fawzi, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez ce que j'ai écrit? Que le prophète sallam a dit. Thalathatun. Thalathatun. Trois personnes. Trois genres de personnes. La yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah. Allah Azza wa Jalla ne va pas leur parler le jour de la résurrection. Trois genres de personnes. Trois sortes de personnes, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas leur parler yom al-qiyama. Ensuite, wala yanzuru ilayhim, ni les regarder, wala yuzakkihim, ni les purifier, walahum adabun alim, et auront un châtiment douloureux. Qui? Subhanallah al-Azim. Qui sont-ils? Ils ont quoi? Yani, quatre. Ils ont quoi? Quatre. Quatre, disons, punitions. Non, quatre châtiments. Il a dit le premier, Il a dit, La yukallimhum Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas leur parler. Certains savants ici ont dit ne va pas leur parler dans le sens de parler de bonnes choses. Et d'autres ont dit non, carrément il ne va pas leur parler. Imagine qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas te parler yom al-qiyamah, ça veut dire que c'est vraiment grave. Regardez nous, dans la dunya ici, si seulement ton père est énervé contre toi, tu veux lui parler, il ne veut pas. Qu'est-ce que tu ressens? Un jour, deux jours, trois jours, une semaine, un mois, il ne te parle pas. Subhanallah, ta mère, ça veut dire, elle ne veut pas te parler. Ça fait une semaine qu'elle ne te parle pas. Chaque fois que tu t'approches devant elle pour lui parler, elle ne te parle pas. Ça veut dire que vraiment, tu as fait. Qu'en est-il maintenant? Allah subhanahu wa ta'ala ne te parle pas. Ne te parle pas, yom al-qiyama. Premier châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, la yukallim, ne lui parle pas. Ensuite, il a dit, wa la yanzuru ilayhim, ni ne les regarde. Certains savants, comme Cheikh Ibn Uthayman rahimahullah, dans Sharh Riyad Salihin, il a dit ne les regarde pas, c'est-à-dire ne les regarde pas avec miséricorde. Sinon, il a dit Allah Ta'ala voit tout le monde et regarde tout le monde. Il a dit c'est impossible qu'il y ait des gens qui ne voient pas ou ne regardent pas. Mais ne les regarde pas avec quoi? Avec, comme on dit, miséricorde. Car il y a plusieurs sortes. Il y a ni comment qu'on regarde. Des fois, je regarde mon enfant avec quoi? Avec colère. Oui, il y a mes yeux peut-être qui veulent sortir. Et des fois, tu regardes quelqu'un avec joie. Des fois, tu regardes quelqu'un avec tendresse. Donc ici, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, Allah Ta'ala ne va pas regarder ce genre de gens avec quoi? Avec miséricorde. Wa la yuzakkihim. Ni ne va les purifier. Il a dit, et ensuite de cela, wa lahum adabun alim. Et auront vraiment un châtiment douloureux. Qui sont ces trois personnes? Il a dit, le premier, il a dit, Cheikhun Zanin. Cheikhun Zani, un vieux ou une vieille qui fait la fornication. Un vieux ou une vieille qui fait la fornication. Quand on dit vieux et vieille, c'est-à-dire 40 ans et on monte. Qui fait quoi? Qui fait la fornication. Le deuxième, c'est qui? Il a dit, un roi menteur. Et le troisième, il a dit qui? Il a dit un pauvre, et celui qui demandait tant sa main aux gens, etc. Il a dit orgueilleux. Donc, qu'est-ce qu'il y a de point commun dans ces trois sortes de personnes? Qu'est-ce qu'elles ont de point commun? On répète la règle. On a dit, maintenant c'est le vice-versa, c'est-à-dire que il n'y a aucune excuse ni tentation pour faire le grand péché et certaines personnes donc le font. On a dit qu'elles ont un grand châtiment, comme ici, quatre châtiments. Pourquoi? Il a dit, Cheikhun Zani, le vieux, qu'est-ce qu'il a à voir avec la fornication? Quelqu'un qui est vieux, normalement, il n'a plus de tentation. Ou bien alors, ces tentations ont faibli. Donc, quelqu'un qui est vieux, il commence à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Comment faire beaucoup de dhikr, comment lire beaucoup de Coran, comment yani faire beaucoup de tsbih. Alors que celui-là est allé faire la fornication. La fornication est haram, que ce soit un vieux ou un jeune. Mais elle est plus haram que chez le jeune. Car chez le jeune, c'est toujours haram, mais plus ou moins. Quelqu'un peut-être il va dire, oui mais c'est un jeune, et tu sais, les jeunes, etc. Les filles, ceci, cela. Jeune. C'est haram, c'est grand péché, mais on va lui trouver plus ou moins, yani, une petite excuse. Mais le vieux, jamais. On va dire, subhanallah l'adim. À 60 ans, ou là, 70 ans, ou là, il a fait la fornication. Donc, il n'y avait pas, comme on dit, yani, les choses qui poussent à la tentation, et celui-là, il a fait. Il a fait le grand péché. Deuxième, roi menteur. Un roi, qu'est-ce qui le pousse à mentir? Un roi, c'est celui qui, il a le règne de tout son pays. Qui te pousse à mentir? Est-ce que quelqu'un peut lui dire, si tu mens, Si tu dis la vérité, je vais aller en prison, ou bien je vais taper, ou bien je vais te faire payer une amende. Quelqu'un peut dire ça au roi. Donc il peut dire tout ce qu'il veut. Donc comment se fait-il? Malgré cela, il ment. Donc Allah Ta'ala dit, celui-là, ni je vais lui parler, ni je vais le purifier, ni je vais le regarder, et encore il aura un châtiment douloureux, lui et le vieux qui a fait la fornication. Et le troisième, c'est qui? On a dit un pauvre. Un pauvre qui, normalement, yani, il est humilié, avili, quand il tend la main pour demander. Alors que celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il est fier et orgueilleux. Mutakabbir. Normalement, si quelqu'un est fier, normalement, c'est le riche. Même si c'est interdit pour le riche d'être mutakabbir. Mais le riche, plus ou moins, il est excusé. On dit tellement il a de l'argent, tellement il a des milliards, tellement il a, qu'il est comme ça devenu fier et orgueilleux. Mais le pauvre, non. Le pauvre, celui-là, c'est un mendiant qui tend la main, et il est comme ça orgueilleux. Il a dit, celui-là, yani yom al-qiyama, ce sera vraiment grave pour lui. Bi-idhnillahi ta'ala. J'arrête une seconde, inshallah ta'ala. Salam alaykoum, le sixième. On va dire le sixième. Donc il reste deux, le sixième et le septième. Les sept qui seront ombragés sous l'ombre d'Allah subhanahu azzawajal. Le sixième, وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. Le sixième, c'est un homme qui quoi? C'est un homme qui a fait une aumône. Hein, il a pris, il y a une chose, et il a donné en aumône de l'argent, de l'or, de Mohim. Il a dit, il a tellement caché la chose que, au point que sa main gauche ne sait pas ce qu'a donné sa main droite. Au point où sa main gauche ne sait pas ce qu'a donné sa main droite. Le cheikh rahimahullah dit, wa hada fihi kamalul ikhlas. Il a dit ça, c'est quoi? C'est la perfection de la sincérité. La perfection de la sincérité. Yukhlisu lillah. Il a dit, il est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. La yuridu min an-nas an yattali'u ala 'amalin min a'malihi. Il a dit, cette personne, c'est du genre qui ne veut pas que les gens sachent ce que fait cette personne. Bal yuridu an yakuna baynahu wa bayna rabbihi faqat. Plutôt, cette personne voudrait que tout ce qu'elle fait reste entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. Reste entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. ولا يريد أن يظهر للناس أن يظهر للناس بمظهر المنة على أحد لأن الذي يعطي أمام الناس تكون له منة على من أعطاه. Il a dit, et ce qui l'empêche aussi de donner comme ça devant les gens, ce qui l'empêche aussi, c'est qu'il ne voudrait pas qu'il ait un statut devant la personne à laquelle on a donné. Car vous savez, quand on donne à une personne, supposons que je fasse une aumône à une personne, supposons. Dans mon cœur, je sens quoi? Je sens que, yani, je suis mieux que cette personne. Je sens quelque chose dans mon cœur qui me dit, toi tu es mashallah, yani, tu lui as donné, et comme ça, vous avez compris. Et c'est pour ça que certains faibles, faibles de foi, peuvent même te faire le rappel. Un de ces jours, la personne peut te dire, écoute, n'oublie pas que c'est moi qui te nourrissais. N'oublie pas que c'est moi qui t'achetais à manger, toi et ta famille. N'oublie pas que c'est moi qui t'aidais quand tu travaillais pas. N'oublie pas que c'est moi ceci, cela. Donc, yani, quand celui qui donne, il peut avoir ce problème. Il peut avoir ce problème. S'il donne quoi? S'il donne devant les gens. Les gens, yani, il va sentir que devant eux, il a fait quelque chose. Mais s'il donne en tête à tête à la personne, yani, cette idée-là, yani, ou ce comportement, yani, s'amoindrit bien là. Donc il a dit, cette personne, quand elle donne bi'idhnillahi ta'ala la sadaqa, elle cache au point où yani, sa main gauche ne sait pas ce qu'a donné sa main droite. Il a dit ici, qu'est-ce que ça veut dire sa main gauche ne sait pas ce qu'a donné sa main droite? Il a dit, ça veut dire min shiddati ikhfa'ihi law amkana an la ta'lama yadu shiman ma anfaqat yadu al-yamin la fa'al. Il a dit tellement cette personne cache. Naam. Cache la sadaqa quand elle la donne, tellement cette personne cache qu'il a dit comme ça, que si c'était possible que sa main gauche ne puisse pas savoir ce qu'a donné la droite, il l'aurait fait. Mais vous savez que yani, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas.
et que la gauche, elle n'a pas un esprit, la raison nécessaire pour savoir ou ne pas savoir. Savoir ou ne pas savoir. Est-ce que la gauche, elle voit? Est-ce qu'elle voit ce qui s'est passé? Non, mais ici, il veut dire que yani, tellement la personne est sincère avec Allah et tellement voudrait cacher que si, yani, si elle pouvait se cacher d'elle-même, d'un de ses membres, elle l'aurait caché. Si elle pouvait cacher que sa main gauche ne puisse pas voir, elle l'aurait fait. Mais bien sûr, on sait que c'est impossible. Le cheikh dit, Fahada mukhlis ghayat al-ikhlas. Cette personne, yani, à la perfection dans la sincérité.
Il a dit cette personne, Allah Ta'ala va l'ombrager dans son ombre. Le jour où il n'y aura d'ombre que son ombre. D'ailleurs, il a dit sauf, illa, annahu rubbama ya'rudu li hadha al-afdali. Afwan, avant cela, afwan. Il a dit, walakin, lahed, anna ikhfa sadra afdal bila shak. Illa annahu rubbama ya'rudu li hadha al-afdali ma yaj'alu mafdula. Il a dit, remarque bien avec moi, dit le cheikh. Il a dit, en général, le fait de cacher l'aumône, c'est mieux. Il a dit, sûrement que c'est mieux. Il a dit, sauf dans certaines circonstances, il arrive que le fait de montrer la sadara devienne mieux que le fait de cacher la sadara. Il a donné par exemple, comme exemple, مثل أن يكون في إظهار الصدقة تشجيع للناس على الصدقة. Il a dit comme si par exemple dans le fait de donner la sadaqa devant tout le monde, si je sais que ça va être quoi? Un encouragement pour les autres. Si je sais que mon geste va être une exhortation pour les autres. Si je sais que en donnant devant mes amis, je vais les indirectement les pousser à ce qu'ils donnent, il a dit dans ce cas, c'est mieux de donner l'aumône comme ça, ouvertement devant les gens. Il a dit, il y a yani, cet espoir-là. Il a dit, وَلِهَدَمْ تَدَحَا Allah Azza wa Jal الَّذِينَ يُنْفِقُونَ سِرًّا عَلَانِيَةً عَلَى حَسْبِهِ مَتَخْتَضِهِ الْمَصْلَحَ. Il a dit, c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a fait des éloges à ceux qui donnent la sadaqa, l'aumône, ouvertement, comme il a fait des éloges à ceux qui la donnent en cachette. Pourquoi? Pourquoi il a fait des éloges aux deux? Comme on vient de dire, des fois, le mieux, et dans la règle générale, le mieux, c'est de la donner en cachette, mais des fois, il y a des situations où le mieux, c'est de la donner ouvertement. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a cité afwan, les deux. A cité les deux, bi'idhnillahi ta'ala. L'âme. Donc, je crois que j'ai le verset ici. Le verset. Non. Regardez le verset. In tub du sadaqati, ni'immahi. Wa in tukhfuha tu'tu al-fuqara'a, fa huwa khayrun lakum, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, wallahu bima ta'maluna khabir. Si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien. Mais c'est mieux encore pour vous. Si vous les faites, les aumônes, si vous les faites discrètement, elles, non, il n'y a pas elles, si vous les faites discrètement et que vous les donniez aux indigents, il n'y a pas le elle ici. Donc, si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien. Ma'alish, alhamdoulilah, surtout, comme j'ai dit, si c'est pour encourager les autres. Mais c'est mieux encore si vous les faites discrètement et que vous les donniez aux indigents. Ensuite, regardez le verset qui va venir. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه خير الرازقين. Maintenant, c'est pour parler un peu de يعني, le fait de faire l'aumône بإذن الله تعالى. Dis, mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs. Le témoin. Et toute dépense que vous faites dans le bien, Allah Ta'ala la remplace et c'est lui le meilleur des donateurs. Donc toute dépense qu'une personne fait dans le bien, qu'elle sache avec certitude qu'Allah Ta'ala va la lui remplacer. Et c'est dans sa dunya, dans cette dunya avant l'au-delà. Allah Ta'ala va la lui remplacer et c'est lui le meilleur des donateurs.
Des fois, une personne dit, par exemple, bon, j'ai donné 100 euros, ça fait un mois, et maintenant, je n'ai rien reçu. On va lui dire, donc toi, yani, tu as donné spécialement pour que on te donne. Non, toi, tu as donné pour cette bille-là. On sait que Allah Ta'ala va te les remplacer, mais quand même, il ne faut pas yani, faire ça à une condition. Mais on lui dit, yani, comment es-tu sûr qu'il ne te les a pas rendus, qu'il ne te les a pas rendus en d'autres choses yani, non. Comment es-tu sûr qu'il ne les a pas rendus en d'autres choses? Allah Ta'ala t'a aidé, par exemple, yani, et tu as reçu tel cadeau, ou bien telle chose, ou telle chose. Car Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, nous rend la chose en 10 fois, en 100 fois, en 30 fois, en 1000 fois, mais nous, on est distrait, on ne remarque pas, on ne médite pas. Non. On ne médite pas, on oublie, et on oublie que c'est lui, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu la chose. Ensuite,
regardez comme dans ce hadith, non. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ الميزان تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمحتقها ومبيقها. المهم le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que le wudu, les ablutions, نعم, est-ce qu'il y a rapport avec le wudu, que c'était la moitié de la foi. Naam. Et ça rentre aussi la purification en général. S'il a dit Alhamdulillah, ça remplit la balance yom al-qiyama. Alhamdulillah, ça remplit. Le fait de dire Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Il a dit wa subhanallah, Alhamdulillah. Quand j'ajoute maintenant Subhanallah, Alhamdulillah, il a dit ça remplit entre les cieux et la terre. Subhanallah, Alhamdulillah, ça remplit entre les cieux et la terre. Wa salatu nur. Et la prière, c'est une lumière. La prière, c'est une lumière. Vraiment une lumière. Plus on prie, plus on est sincère dans la prière, plus on connaît les obligations de la prière, les sunnahs de la prière, les plus yani, on a de la lumière dans le cœur. C'est pour ça que Allah Ta'ala, il a dit dans le Coran que inna salat tanha 'anil fahsha wal munkar. Il a dit que la salat préservée de la turpitude et du blâmable. La salat préservée. C'est pour ça que si tu veux te préserver des grands péchés, il faudrait faire la salat exactement comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et que toute personne qui jusqu'à présent fait des grands péchés, tout en priant, ça veut dire qu'elle ne prie pas la vraie salat que Allah ta'ala a demandé de faire. Il y a un manque dans sa salat. Si tu priais exactement comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala et l'a montré son prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais tu n'aurais fait les grands péchés. Jamais. Car tu as une lumière dans ton cœur et comme disons un feu qui brûle toute shahwa, toute shubha qui arrive. Naam. Toute tentation qui veut venir. Le mot, ils vont continuer avec le même hadith. Il a dit. Donc je ne sais pas où je me suis arrêté, mais je voudrais reprendre la chose la plus importante. Dans le hadith, il a dit que yani sadaqatu burhan, entre autres, il a dit que le fait de donner l'aumône, il a dit burhan, c'est une preuve. Pourquoi? C'est une preuve de la foi et de la sincérité. Car parler et dire de soi-même qu'on est mashallah, qu'on est ceci, tout le monde peut le faire. Mais quand on arrive, yani on te dit, maintenant il y a des pauvres, il y a des nécessiteux, il y a ceux-là, bien on va les aider, ça devient difficile pour toi. Et tu deviens la personne la plus avare qui existe sur terre. Donc, le hadith a dit que la sadaqa, c'est une preuve. Burhan, la sadaqa, c'est une preuve de quoi? De la foi de la personne et de sa sincérité, bi'idhnillahi ta'ala. Car il a fait sortir et il a donné de la chose la plus aimée par lui. La chose la plus aimée par lui. Comme a dit Allah Ta'ala, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا. Comme a dit Allah Ta'ala, que vous aimez les biens et l'argent, yani d'un amour, d'un grand amour. Donc malgré cela, toi tu donnes, yani bisabillah, donc c'est une preuve, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et je vous ai dit une fois, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré, comme dans un hadith authentique, que jamais l'argent ne diminuerait de la sadaqa. Que jamais l'argent ne diminue quand une personne fait une sadaqa. Taïb. Aussi, une seconde. Hein? Ce qu'il faudrait savoir aussi, c'est que la sadaqa bi-idhnillahi ta'ala, la sadaqa bi-idhnillahi ta'ala, elle éteint la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sadaqa, quand on la donne en cachette, c'est ça la différence entre le fait de la donner en cachette et ouvertement. Celle qu'on donne en cachette, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala, elle éteint la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle éteint la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez dans ce hadith, le prophète Islam a dit Sadaqatu sir, tutfi ghadab ar-rabb. Sadaqatu sir, il a dit l'aumône faite en cachette éteint la colère d'Allah. Cheikh Al-Albani a dit hadith authentique avec yani toutes, disons, quand on joint yani les différentes chaînes. Il a dit, c'est un hadith authentique, numéro 1908, dans Sisila Sahiha. Donc, que dit le hadith? L'aumône faite en cachette éteint la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pour que vous sachiez que quand une personne fait un péché, elle sait que Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre elle, que alors il lui est conseillé de faire sortir une aumône en cachette, au maximum, pour que personne ne sache que ça ne soit contre Allah subhanahu wa ta'ala et elle. Peut-être que, comme dans le hadith ici, Allah ta'ala va accepter et, inshallah ta'ala, sa colère va yani, s'éteindre. Naam. Taïb, autre chose aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, attendez, je vais te chercher ici. Il a dit, voilà, je l'ai ici en arabe. Ce hadith, vous le connaissez vous aussi. Je vous l'ai dit une fois. An Abi Hurayra radiallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un jour où le soleil se lève, sans que, yani, deux anges descendent du ciel. L'un d'eux dit, Ô Seigneur, donne à celui qui fait l'aumône, yani un remplacement. Ô mon Seigneur, remplace à celui qui a fait l'aumône, c'est-à-dire aujourd'hui. Et le deuxième, ô mon Seigneur, yani, fait perdre, donne une perdition. À celui qui quoi? À celui qui aujourd'hui n'a pas voulu faire l'aumône. Ya Allah, faites une perdition dans les biens de la personne qui n'a pas voulu faire une aumône aujourd'hui. Et ce hadith, comme je vous l'ai dit, vraiment quoi? Il fait vraiment peur. Naam. Mais alhamdoulillah, qu'il y a un autre hadith qui montre autre chose. Calme un peu les esprits. C'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Allah Ta'ala, quand il a créé l'être humain, il l'a créé avec 360 articulations. Donc nous, combien qu'on a d'articulations? On a 360. Vous savez que ça veut dire une articulation? L'articulation, hein, c'est pas comme une barre de fer comme ça qui est soudée, mais il y a articulation, c'est comme nos doigts. Par exemple, le doigt, combien qu'il a d'articulations? Le doigt, il a une articulation, deux, trois, au moins trois articulations. Au niveau en bas avec la main, ensuite un peu plus haut, ensuite tout à fait en haut. Ensuite, le poignet, c'est une articulation. Le coude, alhamdoulilah, c'est une articulation. Les épaules, le cou, les mains, les bras, etc. Si on va compter combien qu'on a d'articulations, peut-être que, on va trouver 150 ou les 200 là. En fait, il y en a combien? 360. Qui a dit ça? A dit ça celui qui a été envoyé par celui qui t'a créé et façonné. Et je suis sûr que les grands médecins, etc., savent qu'il y a 360. Naam. Parce que peut-être qu'il y a même des choses à l'intérieur qui s'articulent, peut-être, nous on ne les connaît pas. Le mouhim, l'adi khalaqak, Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé, a appris à son messager, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, de nous apprendre, il lui a ordonné de nous apprendre que quoi? Que on a tous 360 articulations. Et il a dit, et c'est obligé pour chaque personne de faire une sadaqa chaque jour pour chaque articulation. C'est obligé. Ou recommandé, vraiment recommandé, au point d'être obligé pour chaque personne de faire une sadaqa pour chaque articulation. Donc chaque jour, qu'est-ce qu'on doit faire? Chaque jour, on doit faire 360 au moins, au moins. Et faire 360 au moins, il faut dire la vérité que ce n'est pas facile. Ce n'est pas simple et ce n'est pas donné aussi à tout le monde. Mais alhamdoulillah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith authentique. Il a dit, an Abi Dharr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, yusbihu ala kulli salama min ahadikum sadaqa. Il a dit, chaque matin, chaque articulation, vous devez faire pour elle une aumône, une sadaqa. Ensuite, il a montré c'est quoi la sadaqa. Il a dit, kullu tasbihatin sadaqa. Chaque fois que tu dis subhanallah, tu as fait une sadaqa. Wa kullu tahmidatin sadaqa. Chaque fois que tu dis alhamdulillah, sadaqa. Wa kullu tahlilatin sadaqa. Chaque fois que tu dis la ilaha illallah, sadaqa. Wa kullu takbiratin sadaqa. Chaque fois que tu dis Allahu akbar, c'est une sadaqa. Wa amr min ma'ruf, le fait de prôner le bien. Naam, il a dit c'est une sadaqa. Wa nahy al munkar, le fait de blâmer le mal. Naam, le condamner le mal, il a dit c'est une sadaqa. Donc on dit alhamdoulillah que yani les 360 sadaqa qu'on est obligé de faire, alhamdoulillah qu'on peut, yani que ce n'est pas seulement de l'argent. Mais c'est subhanallah, alhamdoulillah, la ilaha Allah akbar, sinon vraiment vraiment ce serait grave pour nous. Après cela, qu'a dit la fin du hadith? Il a dit وَيُجْزِئُ عَنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى رواه مسلم. Il a dit, et ça remplace tout cela, ça remplace les trois aumônes de faire quoi? De faire deux rak'at de salat al-duha. Salat al-duha, masha'Allah, vers 9h, 10h, on met salat al-duha. Il a dit, si tu fais deux rak'at de salat al-duha, tu as quoi? C'est comme tu as fait les 360 sadaqa, alhamdoulillah. Donc vous voyez comment yani, notre religion, alhamdoulillah, elle est simple. Imaginez qu'il faut 360 au monde par jour, et c'est pas la sadaqa, c'est seulement de l'argent. Comment qu'on va faire? Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, ah, débrouille-toi. Ah, il faut que tu cherches, je sais pas. Alhamdoulillah. Donc tu dirais, subhanallah, alhamdoulillah, la ilaha Allah akbar, c'est des sadaqat. Et ensuite, si c'est difficile de dire subhanallah alhamdulillah 360 fois, au moins quoi? Il a dit deux rak'at, tu fais deux rak'at de Doha. C'est pour cela que Cheikh Ibn Uthaymin a déduit. Il a dit, d'après moi, salat Doha est presque obligatoire, comme ça il dit. Il a dit, si quelqu'un des savants dit que salat Doha est obligatoire, il a dit, il aura raison. Car certains savants disent que c'est obligatoire. Il a dit, il a raison. Il a dit, pourquoi? C'est quoi son délil? Il a dit, car faire 360 aumônes, c'est obligatoire par jour. Or, les deux rak'at de salat al-duha remplacent les 360 qui sont obligatoires. Donc les deux rak'at sont aussi obligatoires. Vous avez compris ce qu'il a dit? Nous on dit quoi? On dit, qu'en est-il pour les personnes qui sont vraiment loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'ont ni de duha, ni subhanallah, alhamdulillah, la ilaha Allah, Allahu Akbar. Qu'en est-il d'eux? Comment qu'ils vont faire? Comment vont faire ces personnes yom al-qiyama quand ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? À part le fait qu'ils n'aient pas prié l'obligatoire, à part le fait, ni ils ont fait la zakat, ni hajj, ni saum, ni, quand il va leur dire, quand je vous ai créé, naam, j'ai dit, vous fassiez une aumône pour chaque articulation. Et j'ai dit que, ma'alish, celui qui n'a qu'il dit, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Mais vous, toute votre vie, vous n'avez pas fait ça. Il y a des gens qui, toute leur vie, ont passé 30, 40, 50, 60 ans, n'ont jamais dit, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Surtout, les pauvres, les pauvres, les pauvres, ils sont morts dans la mécréance, a'oudou billah. Le malheur, c'est qu'il y a des musulmans, zama musulmans, qui sont aussi loin que les kofars. Aussi loin. C'est-à-dire musulmans. Parce qu'ils s'appellent Omar ou Abdelkader. Mais yani, jamais le mot subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, comment est sorti de sa bouche peut-être. Musulman, je suis ceci, je suis cela. الله يهدينا ودي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. Je voudrais terminer avec le dernier hadith dans la sadaqa où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il a dit داووا مرضاكم بالصدقة. Cheikh Al-Albani a dit c'est un hadith bon. Regarde le hadith 3358 dans Sahih Al-Jami'. Qu'a dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit Soignez vos malades avec l'aumône. Soignez vos malades avec l'aumône. Naam. Beaucoup de gens qui sont malades, qui ont cherché la guérison, en allant chez tous les médecins du monde, et n'ont pas trouvé la guérison. Voilà le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui te montre une issue qui n'existe pas chez les autres. Il t'a dit, soigne-toi l'aumône. Soigne-toi de l'aumône, en mettant dans l'intention que yani, tu cherches la guérison. Et que si tu donnes cet aumône sincèrement, et fi sabilillah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala te donnera la guérison. Et si vraiment aussi tu crois en ce hadith, que Allah ta'ala est capable de tout. Les savants racontent qu'il y avait une fois un homme qui avait au niveau du genou une blessure, qui n'arrêtait pas de saigner. Saigner dans le sens où il y avait le pu, etc. Yani, toujours le mohim, son genou toujours yani, mouillé avec le pu, avec un peu de sang, avec jamais ça ne séchait. Il est allé voir tous les médecins du monde, autrefois bien sûr. Les médecins arabes qui lui ont donné des plantes, des choses à boire, des choses à mettre, comme. Il n'a pas trouvé la guérison. On lui a conseillé un savant, il est allé le voir. Ce savant, j'ai oublié son nom, c'est quelqu'un des selfs très connu. Il lui a dit, écoute, quand il lui a raconté qu'il a tout fait, il n'a pas eu la guérison. Il lui a dit, écoute, je te conseille, va dans tel village. C'est un petit village là-bas où les gens n'ont pas d'eau. Les gens-là se déplacent des distances pour aller ramener boire et pour cuisiner. Va dans ce village-là et construis-leur un puits. Naam, construis-leur un puits. Va leur creuser un puits. Il est allé, cet homme est allé là-bas. Dans ce village, il a cherché quelques gens, quelques hommes, 5 ou 6. Il leur a dit, ramenez les pioches, etc. Et creusez, Inch'Allah Ta'ala, ici, trouviez de l'eau. Et comme ça, il est resté peut-être 6 jours, peut-être 10 jours, en train de creuser. J'ai déjà assisté comme ça, des gens qui creusent jusqu'à trouver l'eau. Et ils ont commencé à creuser, à descendre, jusqu'à un jour, le 8e, le 10e, ils ont frappé comme ça et de l'eau a giclé du fond à terre, de l'eau a giclé. Cet homme a dit, le malade, il a dit, je jure par Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, qu'à la première goutte d'eau qui a giclé de la terre, ma plaie yani, a été yani, guérie. Yani, a, si je puis dire, séché. Il a dit, l'eau est sortie par en bas et ma plaie, subhanallah l'adhim, l'eau qu'il y avait en elle, et le a séché d'un coup. Juste l'eau est sortie d'en bas. Subhanallah l'adhim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a soigné de par quoi? De par l'aumône. Car c'est lui qui a payé ces gens pour qu'ils fassent sortir Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, la meilleure sadaqa, c'est l'eau. La meilleure sadaqa, c'est l'eau. Hadith authentique. Attention que quelqu'un vienne à la maison, frapper à la porte, il te dise, donne-moi à boire, et que tu fasses, et que tu fasses passer cette quoi? Cette occasion en or. Il t'a donné, Allah Ta'ala t'a donné alors une occasion en or. Car il a dit quoi? La meilleure au monde, c'est l'eau. Et aussi, n'oubliez pas qu'une femme est rentrée au paradis en donnant à boire à un chien. Pas à un musulman. Un chien lui a donné à boire et elle, c'est pas n'importe qui elle. C'est pas une pieuse avec le sitar. C'est une femme de joie. Une femme qui fait la zina avec de l'argent. Et elle a donné à boire à un chien. Allah Ta'ala lui a pardonné. Pour la meilleure sadaqa bi'idhnillahi. Quand on dit l'eau, ça va du verre, du fait de donner un verre à quelqu'un, à quoi? Ça va du verre au puits. À construire un puits dans une ville pour les gens qui vont boire et la janaba et prendre des douches, etc. Celui qui Allah Ta'ala l'aide, il construit un puits, yani il meurt, et il meurt. Allah ibarak, yani vraiment il a fait quelque chose, fisabillah. Non. Et la septième personne, inshallah ta'ala, avec laquelle on termine, c'est une personne qui est en seul. La personne que Allah ta'ala va ombrager, yom al-qiyama, c'est une personne qui, le hadith a dit, une personne qui est en seul. Est en seul, yani, a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et a pleuré. Quand on dit a invoqué, soit elle l'a invoqué avec son cœur, ou soit elle l'a invoqué avec sa langue. Soit elle l'a invoqué avec sa langue. Vous avez remarqué qu'il y a deux conditions pour faire partie de cette personne qui va être ombragée. La première, pour Allah. La deuxième, être seul. Être seul. Pourquoi? Pourquoi il a dit, il faut être seul? Car si on est avec les gens, il n'y a pas de preuve que j'ai. Des fois, tu n'as pas envie de pleurer. Tu vois quelqu'un pleurer devant toi, tu vas pleurer. C'est vrai ou pas? Des fois, tu es dans le bar, quelqu'un vient te raconter ses machins qui commencent à pleurer. Il y a des larmes dans les yeux. Pourtant, tu n'avais pas envie de pleurer. Donc, c'est venu à cause de cette personne. Mais si tu es seul, seul dans une chambre enfermée, ou seul dans la mosquée, ou seul dans un endroit, même isolé comme ça, seul, et tu as lu le Coran, ou bien tu as pensé à Allah, ou bien à tes péchés, ou, et tu as pleuré. Il a dit que cette personne sera ombragée le jour où il n'y a d'ombre que l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si par contre une personne pleure, et qu'elle est avec les gens aussi, mais pleure pour Allah subhanahu wa ta'ala, quand même elle aura quelque chose. Le prophète Hassan a dit, Aïnan, la tamassahum annar. Deux yeux, le feu ne les touche. Aïnun baket min khashiyatillah. Un œil qui a pleuré de crainte d'Allah. Et aïnun batet tahrusu fi sabillah. Et un œil qui a passé la nuit surveillé fi sabillah. Yani a survie ne vienne pas, etc. Garde. Fi sabilillah. Numéro 3, 1829, Sahaw al-Albani fil Mishkat. Donc, ici, le hadith a dit que deux yeux, le feu ne les touchera pas. Quand on dit le feu ne touchera pas l'œil de cette personne, ça veut dire aussi qu'il ne touchera pas la personne. Car c'est impossible que yani, le feu ne touche pas mon œil et que moi, je sois. Ça veut dire que, yani, alhamdoulilah, la personne ne va pas rentrer en enfer à cause de son œil qui a fait cette bonne chose. Le premier œil, celui qui a pleuré par crainte d'Allah. Donc là, même s'il pleure devant les gens, il a pleuré par crainte d'Allah, il a cette récompense, qu'il ne sera pas touché par le feu. Mais s'il veut, il n'a pas ombre. S'il veut être ombragé sous l'ombre, en étant seul, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit enfin, وهذه الأعمال سبعة قد يوفق الإنسان فيحصل على واحد منها واثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة. هذا ممكن. Il a dit, le cheikh rahimahullah, il a dit, c'est sept choses qu'on vient de citer. C'est sept choses qu'on vient de citer. C'est possible que Allah subhanahu wa ta'ala aide une personne pour qu'elle fasse une de ces choses. Ou bien deux, ou bien trois, ou bien quatre, ou bien cinq, ou bien six, ou bien sept. Il a dit, naam, c'est possible. Vous avez compris. Il est possible qu'une personne, yani, quelqu'un lui demande de faire la zina, il dit non. Allah subhanahu wa ta'ala, il pleure, sonne la mosquée, il donne des aumônes en cachette, donc il a fait quatre choses. Comme il est possible qu'il puisse faire six, qu'il puisse faire sept, qu'il ne fasse qu'une, une seule, pour être sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas une condition de faire les sept, mais de faire partie de ces sept. Faire partie de ces sept en faisant une des quatre, ça suffit, bi'illah ta'ala. Mais malgré cela, le shir dit, mais c'est possible que quelqu'un, Allah ta'ala, l'aide pour qu'il fasse toutes ces choses-là. Il a dit, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il a dit que le paradis avait des portes. Que le paradis avait des portes, comme ça il a dit. Et vous savez que le paradis a huit portes, et l'enfer a sept portes. Il a dit que le paradis avait des portes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui faisait partie des gens de la salat, c'est-à-dire les salats, nafila, etc., il a dit, on va alors l'appeler par la porte de la salat. Les anges, etc., vont l'appeler pour qu'il rentre au paradis par la porte de la salat. Et celui qui fait partie des gens de l'aumône, ceux qui donnaient beaucoup d'aumône, etc., il sera appelé par la porte de l'aumône, afoun. Et celui qui faisait partie du djihad, il faisait du djihad, etc., sera appelé par la porte du djihad. Et celui qui faisait beaucoup de siyam sera appelé par la porte du siyam, qui s'appelle Rayyan. Rayyan. Le prophète Hassan m'a cité quatre portes ici. Alors, Abu Bakr Siddiq lui a dit, Ya Rasulallah, est-ce que c'est possible, yani, que quelqu'un rentre par toutes les portes, yani, les huit portes? Le prophète Hassan m'a dit, Naam, oui. Et je souhaite que tu sois toi et Abu Bakr, je souhaite que tu fasses parmi deux. Je souhaite que tu fasses parmi, yani, tu sois parmi eux. Et le prophète, quand il dit comme ça, je souhaite que telle et telle chose, ça veut dire que, bi'idlillah, yani, elle va être exaucée. Elle va être exaucée. Ensuite, là, le cheikh Ibn Rahim fait des doigts, il dit, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de sorte que on soit de ceux qui rentrent par la sadaqa, jihad, siyam, et comme ça. Et comme ça. Là, ici, ce n'est pas seulement pour rentrer au paradis. Non, car tout musulman va rentrer au paradis. Mais même dans le paradis, yani, il y a comme des portes comme ça où ce n'est pas n'importe qui va les rentrer. Vous avez compris? Ce n'est pas n'importe qui va les rentrer. Quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup de siyam, il va rentrer quelque chose qu'il n'y aura pas chez, par exemple, dans l'autre porte. Pourquoi? Celui-ci, il passait, par exemple, ses journées à jeûner, ses journées à ne pas boire. Alors que toutes les autres personnes, du matin au soir, n'arrêtez pas de manger toutes sortes de manger, de boire toutes sortes de boissons. Naam, des jus, des ceci, de cela, et lui, il se privait. Alors, il a spécialement une porte, yani, ce qui s'appelle Rayyan. Rayyan, yani, pour quelqu'un qui va boire beaucoup. Rayyan, c'est ça, ça veut dire ça. Et comme ça. Et enfin, le shir dit pour la dernière chose avec laquelle il termine, il dit, et attention, il dit, il faut pas. Yani, il dit, il y a des talibouïnes qui se trompent, et qui croient que, lorsque Allah Ta'ala a dit qu'ils seront sous mon ombre, il a dit, il croit que Allah Ta'ala, il a dit, ça c'est faux. Car si tu dis que Allah Subhanahu wa Ta'ala a de l'ombre, ça veut dire que le soleil est plus haut que lui. Le soleil est plus haut et Allah est en bas. Car pour que de l'ombre, le soleil soit au-dessus d'elle. Or, nous tous, on sait que Allah Ta'ala, c'est lui haut, donc c'est impossible que yani, l'ombre ici, que ça veuille dire son ombre de lui. Mais quand il a dit son ombre, qu'il sera sous son ombre, ça veut dire l'ombre qu'il va créer, une ombre spéciale que la terre va créer, comme il dit son ciel, il dit sa terre, ses nuages, ses étoiles. Yani, ça veut dire que ça lui appartient. C'est comme ça qu'il a dit. Il a dit, ils seront sous mon ombre, l'ombre qui m'appartient et que je vais créer, bi'idhnillah ta'ala. Et je vous ai dit la fois passée que même que certains ont dit que c'était l'ombre du trône. Certains ont dit c'est l'ombre du trône à cause du hadith authentique 3019. Cheikh Al-Albani a dit sahih, où yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظلهم إلا ظل عفوا يغبطهم بمكانهم النبيون الشهداء. Regardez ce hadith numéro 3019, Sahih al-Jami', 3019 Sahih al-Jami'. المتحابون في الله, ceux qui s'aiment en Allah, في ظل العرش, seront sous l'ombre du trône. Regardez ce qu'il a dit ici. L'ombre du trône. Yawma la dhill illa dhillo. Le jour où il n'y aura d'ombre que cette ombre, l'ombre du trône. Yarbitohum wada. Au point où les prophètes et les martyrs vont les convoiter. Ils vont dire, yani, masha'Allah, yani, le statut qu'on est, en étant sous l'ombre du trône. Vous savez, le trône, là, ce n'est pas, yani. C'est impossible déjà de le décrire. Tellement il est beau, tellement il est grand, tellement. C'est la chose la plus grande, yani, des choses créées. Des choses créées. La chose la plus grande, la plus belle, c'est quoi? C'est le trône. Masha'Allah, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, inshallah, pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.
Donc la première question. Question d'un frère. Salam alaikum wa rahmatullah, cher. Ma question concerne la sadaqa. Je vis dans une ville en Suisse dans laquelle il y a deux mosquées. Une Ahbash, dans laquelle je n'ai jamais mis les pieds, walillahi alhamd, et une autre mosquée dont je ne saurais pas définir le minhaj. Mais certes, ce n'est pas une mosquée salafia, car ils font de la pub à Tarak Ramadan et invitent parfois son frère à Hani. Je n'ai donc pas d'autre choix que de prier dans cette mosquée. Parfois, à la fin du Jumu'ah, ils font une collecte d'argent pour l'entretien de la mosquée, électricité, eau, etc. Puis-je donner une aumône à cette mosquée qui n'est pas salafia, sachant que j'y prie tous les jours? Fadal Cher.
Il y avait deux mosquées, l'une, celle Ahbash, et l'autre, celle des Abdoulilah. Je dis moi aussi alhamdoulillah. Alhamdoulillah, car même si tu vas chez la mosquée des Ahbash et ils savent que c'est la vie, problème. Et les Ahbash sont connus pour être des gens violents qui peuvent te frapper et voir te tuer si c'est possible. Si c'est possible, tu es dans le minhaj. La mosquée des Ikhwan, là-bas qu'il faut prier. Et tu n'as pas le droit de dire je vais prier à la maison. Parce que ce sont des rois et je n'ai pas où prier. Là, tu pries là-bas, tu n'as pas d'autre état là. Quant à la mosquée, si tu aides la mosquée, tu donnes la sadra pour la mosquée, il n'y a pas de problème, Inch'Allah Ta'ala. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas que demain, yani, ces rois vont partir et peut-être il y a d'autres qui vont venir. Ensuite, la mosquée en elle-même, c'est pour que les gens. En groupe, etc. Je pense, wallahu ta'ala alam, que yani, si tu donnes l'aumône là-bas dans la deuxième mosquée, que inshallah ta'ala, c'est accepté. Maintenant, si tu as des doutes, prends une autre mosquée. Tu peux t'envoyer ton argent à une autre personne. Tu lui dis quand tu vas dans telle mosquée, tu la donnes. Naam. Ou alors tu as des doutes pour la mosquée, tu peux acheter par exemple des Corans. De Corans. Il est mosqué. Tu es sûr que, et il n'y a pas de doute que celui qui va le lire, Inch'Allah Ta'ala, c'est toi qui va prendre les récompenses avec lui. Bi'idhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. En passant, je pose une question. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui va venir ces temps-ci en Algérie? Quand je dis. Si quelqu'un connaît quelqu'un. Qu'il me fasse, Inch'Allah Ta'ala, par bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala.
Salam alaikum. Alhamdoulilah, j'espère que ça coupe pas cette fois. Alhamdoulilah. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. فلا est-ce que participer financièrement à la construction de mosquées et d'écoles musulmanes en France est une sorte de manière à pousser les gens à rester vivre en France au lieu de les pousser à faire la hijra, qui est la priorité pour tous, sallallahu alayhi wa sallam. En fait, il faut voir pourquoi, par exemple, je vais participer à la construction d'une mosquée en France. Si je vais participer avec l'idée que c'est pour que j'aide les gens qu'ils restent ici, pour qu'ils ne partent pas et fassent la hijra, ça devient quoi? Ça devient un grand péché. Car, yani, je vais être une entrave pour ces gens-là, pour qu'ils accomplissent quoi? Pour qu'ils accomplissent un devoir, une obligation. Mais, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des gens ou un groupe de gens restera toujours en France, ou plutôt dans un pays de coffre, jusqu'à la fin du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas, par exemple, les moyens de venir. Il y a des gens, par exemple, qui sont reconvertis. Quand il a ouvert ses yeux, il s'est trouvé dans un pays de coffre. Son père, c'est un kafir. Son grand-père, c'est un kafir. Ses aïeux sont des kofars. Sa mère, kafir. Donc, et par exemple, c'est une femme, et des fois elle n'a pas de mari, et des fois il n'y a pas d'argent, et des fois il n'y a pas de pieds à terre, ni rien. Donc celles-là, ceux qui sont dans ce genre, sont excusés. Sont excusés avec le verset lui-même. Donc il y a des gens qui resteront, qu'on le veuille ou pas, il y a un homme qui restera toute sa vie dans un pays de kofr, puisse Allah subhanahu wa ta'ala les aider. Et ces gens-là, et cette communauté-là, et les gens qui travaillent là-bas, envoyés d'ici, par exemple les ambassadeurs, les consuls, les ceux-là, c'est obligé qu'ils vivent là-bas. Donc ceux-là, il leur faut bien une mosquée. Donc moi, si j'aide une mosquée là-bas, j'aide avec la niya que c'est pour ceux qui ne peuvent pas faire la hijra, ou là, qui, pour ceux qui, ou là, dont la hijra n'est pas obligatoire, inshallah ta'ala. Comme ça, on doit faire la niya. إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم تفضل.
question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher, les aumônes par rapport aux articulations, est-ce les différentes doas, salat et tasbih dans la journée sont comptées dedans ou bien faut-il en faire en plus? Par exemple, chaque takbir dans la salat ou le fait de dire Subhana rabbil azim et subhanallah 33 fois, etc. Compte ou pas? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tfadda shaykh.
Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est une bonne question. En fait, je ne connais pas sa réponse. Je ne connais pas la réponse de cette question. Mais ça ne fait rien, inshallah ta'ala. Je vous donne mon avis, le temps, inshallah ta'ala, de chercher, le temps de faire des recherches. Il me semble, Allah subhanahu wa ta'ala alam, que ce ne sont pas les tasbih et les takbir qui sont dans la salat, mais qui sont hors de la salat. Pourquoi? Car le hadith a dit, et de tout cela, les tasbih, takbir, les 360, il a dit, les deux rak'at de salat al-duha les remplacent. Car si c'était les autres, en faisant 5 salats obligatoires, en faisant chef, en faisant 8, peut-être on les aurait fait. Surtout ceux qui font les 12 rak'at de la maison dans le paradis. Mais ici, il a dit, si tu veux remplacer les 360, il faut faire 2 rak'at de Doha. Donc ça veut dire que, Allahu alam, c'est quelque chose en plus. C'est quelque chose en plus, mais c'est ce qu'on fait dans la journée. Dans la journée, quand tu marches dans la rue, tu dis, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, et comme ça. Dans la journée, ou alors le lit du matin, du soir. Mais, Allah a dit que ce qui n'est pas dans la salat, à l'intérieur de la salat, je dis, Allah ta'ala a'lam. Tfadal.
Question suivante, question d'une sœur. Enfin, une question d'un frère. Assalamu alaikum. Qu'Allah nous compte parmi ceux qu'Allah couvrira de son ombre. Est-il permis à un homme de mentir à sa femme
pour ne pas dévoiler ses adorations surérogatoires par peur de l'ostentation. Exemple, dire qu'il a été retenu pour une affaire importante entre le Maghreb et l'Isha, pour ne pas dévoiler qu'il est resté à la mosquée après Maghreb en attendant l'Isha. Barakallahu fikoum. Tfadal cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah. En fait, en disant qu'il a été retenu pour quelque chose d'important, il n'a pas menti. Il n'y a pas plus important que de faire une obligation et de faire une obéissance. Donc il n'y a pas plus important que, par exemple, de lire le Coran, ou bien d'aller aider un pauvre, ou bien de faire quelque chose de sabila. Et toi, tu as attendu, tu es resté entre Maghreb et Isha pour quelque chose de très important. Car tu sais quelle est la récompense de celui qui reste entre Maghreb et Isha. Mais ce qui n'est pas bien, c'est de mentir carrément et de dire je suis allé chez X ou bien chez le coiffeur ou bien chez le mécanicien alors que tu étais dans la mosquée. Donc si tu veux mentir, il faut mentir comme c'est permis, c'est-à-dire dans le sens d'insinuer, insinuer, même jouer avec les mots, dire je suis resté, même car j'avais une affaire très importante, c'est tout. Wallahu ta'ala alam. Tfadal. Non. Donc maintenant quand nous, on nous pose des questions pareilles et on informe les frères comment jouer avec les mots, donc toutes les épouses qui sont en train de nous entendre ont compris le jeu. Donc maintenant, si son mari lui dit, elle lui dit pourquoi tu n'es pas venu après Maghreb, il lui dit j'avais une affaire importante. Donc ça veut dire, c'est clair, femme. Hein? Voilà. Donc il faut chercher autre chose, hein. Voilà, donc.
Question suivante, cher, question d'un frère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Merci qu'aux admins. Je connais quelqu'un qui a 75 ans.
Une menace.
Il ne fait pas la prière, mais donne la zakat. Il fait le ramadan. Bien sûr, cette personne ne veut rien entendre de la prière, la reconnaît, mais ne la pratique pas. Qu'en est-il pour ce genre de personnes? Est-ce que leurs bonnes actions seront récompensées? Et est-ce qu'ils vont aller au paradis? Et est-ce qu'ils sont devenus kafir? Tfadal cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, c'est une question, comme on dit, très pertinente, et en même temps, ancienne. C'est une question à laquelle on a répondu plusieurs fois, en disant que, Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul sait. Est-ce que celui qui ne fait pas la... Est-ce qu'il est toujours musulman ou il est kafir? Si on va prendre de l'avis des quatre grands imams, qu'il n'est pas kafir. Donc, si on va prendre de cet avis qu'il n'est pas kafir, et la preuve, il fait la zakat et il a dit qu'il fait le siyam, donc celui-là, quand il va mourir, ce sera très grave pour lui. Même en étant musulman, ce sera très grave pour lui, pour ne pas avoir fait la prière. Donc, quand est-ce que Allah Ta'ala va lui pardonner? Allahu A'lam. Et s'il va d'abord le faire entrer au paradis, pour le purifier, Allahu A'lam, combien de temps il restera, et peut-être combien de milliards d'années il restera. Surtout que, il aura rencontré Allah Ta'ala avec le plus grand péché, qui vient après le shirk, de ne pas faire la salat. Je dirais même pire, le hadith a dit que c'était du kofr, et du shirk, de ne pas faire la salat. Et maintenant, si on prend l'autre avis qui dit qu'il est kafir, donc dans ce cas, ça ne lui sert à rien de faire la zakat et de faire le saum. Ce qu'il gagne, par contre, ce qu'il gagne, c'est que Allah Ta'ala va le rétribuer dans cette vie. Il va lui donner des enfants, il va lui donner beaucoup d'argent, et comme ça, comme dans le hadith authentique. Reste une chose avec laquelle on va terminer dans cette question, c'est quoi? C'est de ne jamais, jamais, jamais faire l'erreur de dire à quelqu'un, puisque toi tu ne veux pas prier, alors je te conseille d'arrêter les bonnes œuvres que tu fais. Je te conseille d'arrêter la zakat ici, ou le siyam, ou là, parce que tu ne veux pas prier. Attention, vous faites cette faute. C'est la faute la plus grande que vous pourriez faire dans votre vie. Quelqu'un qui fait du bien, au lieu de l'encourager, jusqu'à ce qu'il fasse la salat, on va lui arrêter le bien qu'il fait. on va diminuer. Naam. Au lieu de le pousser vers l'avant, on le pousse vers l'arrière. Et il dit, ah bon, puisque donc rien n'est accepté, donc à moi j'arrête tout. Et il arrête tout. Donc attention que vous fassiez cette faute. Laissez-le faire la zakat, faire le siyam. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala, en voyant qu'il a un peu de sincérité dans son cœur, le fait qu'il fasse la zakat, il fasse le siyam, alors que d'autres n'en font rien, peut-être qu'il va l'aider, le guider, lui ouvrir sa poitrine, bi'idhnillahi ta'ala. Tafadhal.
Question suivante, question d'une sœur. Salam alaykoum, cher. Et barakallahu fikoum de nous accorder de votre temps. Qu'Allah nous augmente notre foi et notre science. Ma question est, un imam en France a dit qu'on devait faire l'aumône dans le pays où l'on vit. Or, il n'a donné aucune raison. Je voulais savoir quel est votre avis sur cela, car personnellement, je préfère faire des aumônes et les envoyer en Algérie aux vrais pauvres qui en ont vraiment besoin. Car à mon avis, en France, il y a déjà beaucoup d'aides mises en place par le gouvernement. J'ai lu une fatwa que pour Zakat el-Fitr, c'était obligé dans le pays où on jeûne. Mais je n'ai rien trouvé pour la sadaqa. Barakallahu fikoum, cher, ainsi qu'aux admins. Fadal, cher.
Non, c'est vrai. Aïkoum salam, rahmatullah. Les savants disent que c'est mieux, c'est-à-dire, quand on veut aider, qu'on commence par celui qui est, yani, proche de nous. Donc mes voisins, ou alors je commence par ma famille, ensuite mes voisins, ensuite les gens de ma ville, ensuite sinon l'autre ville, ensuite, quand il n'y a plus dans mon pays, dans un autre pays, comme ça. Mais ça, ce n'est pas une obligation. C'est dans le cas où je connais qu'il y a des gens yani, nécessiteux, etc., et que yani, je dois les aider. Mais si par contre, je sais qu'il n'est plus, yani, qu'il n'y a plus nécessiteux dans un autre pays, ou alors que dans un autre pays, par exemple, il y a quelqu'un de ma famille qui est aussi nécessiteux que celui-là. Par qui je commence? Par un étranger que je connais pas ou par quelqu'un de ma famille qui est loin? Je commence par quelqu'un de ma famille, même s'il est dans un autre pays, bi'idhnillahi ta'ala. Car comme ça, j'aurai quoi? J'aurai deux récompenses, bi'idhnillahi ta'ala. Donc je veux dire à cette personne, si elle connaît des gens de sa famille ou bien des gens qui sont plus nécessiteux ailleurs, elle peut, inshallah ta'ala, envoyé bi'idhnillahi ta'ala, Allahu a'lam. Tafadhal.
Question suivante, question d'une sœur. Salam alaykoum. Hayakoum. Allah yachir. Pendant le dars, vous avez dit comment concilier cela avec les Ibn al-Qayyim rahimahullah qui dit que l'enfer a trois portes. Barakallahu fikoum. Tafadhal, cher.
Premièrement, j'ai pas compris la phrase des pensées profondes. Les pensées profondes. Ensuite, je suis très sûr que jamais Ibn al-Qayyim rahimahullah n'a dit ni ne dira que l'enfer a trois portes. Peut-être qu'il parlait d'une chose que celui qui a posé la question n'a pas bien compris, c'est tout. Car c'est impossible que Ibn al-Qayyim dise que l'enfer est trois portes. Peut-être qu'il résumait, il voulait dire que les sept, si on les divise ça dans trois ou quelque chose comme ça, mais de dire que l'enfer, que Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ne sait pas et ignore que le paradis a huit portes et l'enfer a sept portes, c'est impossible. Non, ça ne marche pas avec un grand savant. Un grand savant des selfs. Tfadlal, demande le mic, tfadlal.
Non, ma Rafouane, cher, je viens de remarquer en fait que sur le site, elle avait donc posté un commentaire du livre d'Ibn al-Qayyim, elle met la source, donc je vous la mets sur le salon, et elle dit, donc les gens entrent en enfer par trois portes. La porte des ambiguïtés, qui fait naître le doute concernant la religion d'Allah Ta'ala, la porte des désirs, qui donne prééminence aux passions sur l'obéissance et la satisfaction d'Allah Ta'ala, et la porte de la colère qui pousse à maltraiter les créatures d'Allah Ta'ala. Tfadha, cher.
Naam, alhamdoulilah. Donc, en citant cela, c'est que la personne rejoint ce que j'ai dit. Que Ibn al-Qayyim, rahimahullah, n'a pas dit que l'enfer avait trois portes. Mais il a dit qu'il y avait trois portes qui faisaient rentrer en enfer. C'est-à-dire trois voies, trois chemins, ici chemin, trois chemins qui font rentrer en enfer. Le chemin de l'ambiguïté, le chemin de la tentation et le chemin de la colère. Voilà ce qu'a voulu dire Ibn Qayyim, rahimahullah. Sinon, le hadith est clair et Ibn Qayyim le sait aussi, il a cité dans plusieurs de ses livres que l'enfer a sept portes, et il est cité aussi dans le Coran, la sab'atu abwab, li kulli babin minhum juz'un maqsum, et le paradis a huit portes, il a cité dans le hadith authentique que la personne, quand elle termine le wudu, elle fait la dua que yani, les huit portes du paradis s'ouvrent. Et là, la personne choisit de quelle porte elle rentre. Donc ici, porte veut dire, yani, l'issue, la voie, le chemin. L'issue, la voie, le chemin. Non, tfadlal. C'est un peu comme si je dis, par exemple, les portes d'Allah Ta'ala sont toujours ouvertes. Ou bien les portes de la Tawbah sont ouvertes. Ça ne veut pas dire que la Tawba a des portes qui s'ouvrent et se ferment et qu'il y a un nombre. Vous avez compris? Alors, ça veut dire que le chemin de la Tawba, il est toujours ouvert. Tfadlan.
Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum, cher. Puisse le Tout-Puissant vous rajouter de la science et déverser sur vous une part de sa miséricorde. On aimerait faire Salat Duha, mais elle craint de ne pas être assidue, c'est-à-dire de la faire tous les jours. Peut-elle tout de même la faire quand elle le peut? Hayakum Allah, Azza wa Jal, et Jazakum Allah khayran pour votre réponse. Tfadal, cher.
Wa alaykum salam. Allah et amin pour les doigts, puisque Allah subhanahu wa ta'ala englober dans ses doigts toutes les personnes qui sont présentes ici avec nous dans le salon ce soir. Je dis, Naam, une personne yani, qui fait la salat duha par exemple une fois par semaine est mieux que celle qui ne la fait pas du tout. Une personne qui fait salat duha une fois par 15 jours est mieux que la personne qui ne la fait pas du tout. Hein? Donc toi, si tu peux la faire une fois par semaine, fais-la une fois par semaine. Le temps que Inch'Allah Ta'ala Allah t'aide pour que tu la fasses, par exemple, trois fois par semaine. Jusqu'à ce que, Inch'Allah, petit à petit, la personne, Inch'Allah Ta'ala, puisse la faire tout le temps. Naam, si elle peut. Puis si elle ne peut pas, disons qu'elle la fasse alors le temps où elle peut. Qu'elle la fasse le temps où elle peut. Et le temps où elle ne peut pas, nous on prend de l'avis qu'elle n'est pas obligatoire. Qu'elle n'est pas obligatoire, surtout si elle fait le tasbih, les 360, hein, donc elle n'est plus obligatoire. Et c'est l'avis de la plupart des ulama que salat al-duha n'est pas obligatoire, inshallah ta'ala. Naam, tfaddal. Et moi-même qui vous parle, je ne la fais pas tout le temps. Moi-même qui vous parle, je ne la fais pas tout le temps. Si on donnait l'exemple d'aujourd'hui, je ne l'ai pas faite. Naam, j'étais pas là, je ne l'ai pas faite. Taïb, tfaddal.
Question suivante, question d'un frère. Assalamu alaikum, cher. Qu'Allah vous fasse miséricorde ainsi qu'aux admins. Amin. Peut-on dire qu'un juif, un chrétien ou un athée qui meurt et dont on savait qu'il était investi dans sa religion ou sa cause, qu'il est mort mécréant, sachant que nous ne savons pas ce qu'il y avait dans son cœur, est-il juste de croire qu'on ne sait pas s'il ira en enfer ou au paradis? Barakallahu fekoum. Tfadal, cher.
Je pense, wallahu alam, je dis wallahu alam, qu'il faudrait faire la différence entre le juif et le chrétien, les gens de la masse, et le juif et le chrétien qui, comme a dit la personne ici, était investi dans la religion, et qui peut-être même faisait la da'wah, c'est-à-dire a atteint le degré de prêtre, ou bien de curé, ou bien de rabbin, ou de je ne sais quoi. Les premiers, c'est-à-dire les gens de la masse, ceux-là, quand ils meurent, on dit d'eux qui sont morts en état de mécréance, kafir. Reste reste pour yani avoir la certitude à 100% qu'ils iront en enfer, Allahu alam. Pourquoi? Seulement avec yani cette marge, pas de doute, bon, ils ont entendu du vrai islam ou pas. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que il a juré par Allah qui détient son âme qu'il n'y a pas un chrétien ou un juif qui entendrait parler de lui et ne le suivrait pas qu'il irait en enfer. Comme ça il a dit. Mais certains savants ont dit qu'il entendrait parler de lui veut dire dans le sens où yani lui alayhi salam sallam avec ses qualités, que c'était l'homme le plus, dont le cœur était le plus rempli de miséricorde, l'homme qui aimait le bien, l'homme qui aimait les gens, l'homme qui était là pour te faire entrer au paradis, ceci, cela. Ils ont dit donc, si quelqu'un n'a pas entendu ces qualités-là, mais on lui a montré le contraire, on lui a dit cet homme-là, c'est un sorcier, c'est un djinn, c'est un voleur, c'est un mécréant, c'est quelqu'un qui aime les femmes, c'est quelqu'un qui aime les hommes, c'est quelqu'un qui ceci, cela, montre un ceci. Certains savants ont dit donc cela, n'ont pas entendu vraiment de lui, mais d'un autre, pas du prophète alayhi salam. Donc ils ont dit cela, cette catégorie de gens, de chrétiens et de juifs, wallahu alam, seront questionnés yawm al-qiyama, comme les quatre autres, dans le hadith authentique. Wallahu alam. Mais quant à la deuxième partie, celles qui se sont vraiment investies dans le din, qui connaissent les délits et qui ont même lu, ils ont lu dans l'évangile qu'il y a quelqu'un qui allait venir, qui s'appelait Mohammed, etc., et l'ont effacé, ou bien ne veulent pas le dire, ou bien ceux, c'est-à-dire ceux qui connaissent vraiment la vérité, et ils sont rentrés dans l'égarement, avec clairvoyance. Ils n'ont pas choisi l'islam avec clairvoyance et ils savent que c'est l'islam qui est le vrai. Et qu'à part l'islam, aucune religion n'est acceptée et ils ne veulent pas suivre. Cela, tu peux même, comme a dit le Coran, dès maintenant, leur annoncer la nouvelle du feu. Et le prophète Hassan a dit que quand tu passes devant une tombe d'un kafir, il a dit, annonce-lui la nouvelle du feu. Annonce-lui la nouvelle de l'enfer. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tafadhal.
Question suivante. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullah shir. J'ai besoin de vos conseils. Qu'Allah vous accorde la réussite ainsi qu'à votre famille. Je me suis marié il y a un peu plus d'un an. Je ne vois plus personne. Je suis loin de ma famille. Mais alhamdoulilah, je ne me plains pas. Mon mari suit le minhaj salafi, alhamdoulilah. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi. Il m'avait l'air d'avoir un bon comportement et d'être respectueux. Je pensais vraiment qu'il allait m'éduquer dans le din. On commet tous des péchés, je sais, mais voilà, je me suis rendu compte que de temps en temps, il dit des insultes très honteuses. Il est beaucoup, beaucoup grossier, ce que je ne supporte pas. J'ai été éduqué dans une famille où les gros mots étaient quelque chose de grave. Donc interdit. Mais voilà, quand je l'entends parler de cette façon, plus de ça parfois, il a des baisses de foi comme tout le monde, comme moi, mais lui le problème c'est qu'il met de la musique à fond, ce qui m'est insupportable, et seul Allah sait à quel point je déteste ça. Dans cette musique on n'entend que des mots pervers. J'ai beau faire nasiha avec gentillesse, patience, il ne m'écoute pas. Et je ne peux pas m'isoler, on est dans un petit appartement. Je sens ma foi cassée, j'ai parfois des waswas de shaitan qui me poussent à mal me comporter avec lui et dire des choses que je regrette, mais il me pousse vraiment à bout. Je sais que je commets un grave péché, mais c'est dur pour moi. Mais j'ai peur de ne pas patienter, j'ai vraiment peur que ça se termine en divorce. Qu'Allah vous accorde le paradis, cher, ainsi qu'aux admins et toutes les personnes présentes à vos cours. Amin. Pouvez-vous me conseiller sur le comportement que je dois adopter face à lui? Qu'Allah vous préserve. Fadha Cher.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Vous entendez, muslim? Non. Donc c'est malheureux qu'il y ait des gens comme ça, mais ces gens, yani, ça existe et ça restera jusqu'à la fin du monde. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ont préservé. Et Mouhim. Donc cette sœur devrait quoi? Faire yani, encore des naséhas à cette personne. Surtout si cette personne yani, atteste dans son cœur que la musique est haram. Car il est possible que cette personne, par exemple, ait le minhaj, mais là, elle a dit qu'il était salafi. Sinon, s'il a le minhaj des ikhwan muslimoun, pour les ikhwan muslimoun, la musique n'est pas haram, vous savez. Donc pour lui, il est en train de faire du halal. Al-Muhim. Mais Salah, elle dit qu'il est salafi, donc automatiquement, il doit savoir dans son cœur que c'est haram ce qu'il fait, mais c'est dû à une cause, et à dire la cause, c'est la baisse de foi. Je lui dis, elle doit lui faire encore des nasihas. S'il n'accepte pas, elle fait, comme a dit le Coran, elle fait appel à sa famille, à elle et sa famille à lui. Et ils font une assise et elle raconte. Elle dit, moi, voilà ce qu'il me fait, moi, qui encaisse. Maintenant, moi, au lieu d'avancer, je reviens marche arrière et le shaitan, des fois, me fait des ouest, des fois même, des fois, le shaitan peut me pousser à ce que je devienne comme lui. Et que j'écoute la musique et ceci et cela et que j'arrête tout. Donc moi, de peur de ma foi, je vous ai rassemblés pour que vous cherchiez une solution. Si on te dit c'est quoi la solution que tu cherches, tu leur dis, ou bien il arrête ça, ou bien on se sépare. Ou bien il arrête ça, ou bien que chacun prenne, Inch'Allah, son chemin. Qu'il me divorce et il me laisse tranquille. Qu'il me divorce et qu'il continue, lui, à quoi? À écouter la musique et à faire venir aussi des filles chez lui et danser s'il veut. Mais qu'il me yani, laisse, Inch'Allah ta'ala, libre pour que yani, je commence ma vie avec quelqu'un qui aime Allah subhanahu wa ta'ala et qui, au lieu d'écouter la musique, on écoute ensemble des cours. Yani, on écoute ce que dit Cheikh Fouzan, ce que dit l'autre. Voilà, au lieu d'écouter la musique et la perversité. Tu dis, car moi aussi j'ai peur pour mon dîn et j'ai peur, si je continue avec lui, de devenir comme lui ou pire. Car moi aussi je suis un être humain, je suis faible et je suis influençable. Voilà, donc il faut faire, si ce n'est pas ta famille, sa famille, ma'alish, tu lui dis si yani, on n'est pas d'accord, des amis à moi, leur mari, etc., on se rencontre et on trouve une solution. Mais continuer comme ça, non, parce que ça va aller à la perdition, à a'oudou billah. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aider, ma soeur, mais il faut être ferme. C'est une question de foi. C'est une question de paradis et d'enfer. Naam. C'est très facile que toi aussi, il t'attire de l'autre côté. Naam. C'est une question, il faut être ferme. Ou bien on pratique, ou bien on arrête. On n'est pas là ici pour jouer. Naam. C'est une question d'enfer et de paradis. Tayyib. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aider. Tfadlal.
Question suivante, question d'un frère. Salam alaikum wa rahmatullah, cher. Hayakum Allah. J'ai une question concernant la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, le dernier tiers de la nuit. Sachant que la nuit ne débute et ne termine pas au même moment aux différents endroits de la terre, par exemple, la nuit ne tombe pas au même moment en France et en Australie, est-ce que cela voudrait dire qu'Allah descend plusieurs fois au premier ciel d'une manière qui lui est propre dans une même nuit? Barakallahu fikum. Fadda cher.
Naam, alaykoum salam, tutlah. Nous, les croyants et les musulmans, il mu'minoun. Nous avons cette qualité qu'a cité Allah Ta'ala dans le Coran, dès le début du Coran, alladhina yu'minuna bil ghaib. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ceux qui croient en l'invisible. Ceux qui croient en des choses qui, logiquement, c'est impossible. Mais puisque c'est cité dans le Coran et la Sunna, khlas, je crois. Est-ce que toi, tu crois que on va enterrer deux personnes dans la même tombe? Deux personnes collées l'une à l'autre. Mieux encore, on va les attacher. On va les attacher avec une corde pour qu'ils ne se séparent pas et que ces deux personnes, après les avoir enterrées, il y a des anges qui vont les réveiller et l'une des deux personnes va être comme dans le paradis, masha'Allah, et elle entendra une voix qui va dire Mon serviteur a dit vrai, habillez-le du paradis, ouvrez-lui une porte au paradis, et que le deuxième qui était kafir, que yani, il va être frappé avec une barre en fer, et on va lui dire mon serviteur a menti, ouvrez-lui une porte vers l'enfer. Est-ce que tu crois en ça alors que ils sont collés l'un à l'autre dans la même tombe et chacun son châtiment, subhanallah, si on va suivre la logique, on va dire non, ça c'est pas possible. Déjà, en les attachant, comment ils peuvent enlever la corde pour s'asseoir et parler? Ensuite, tu vas dire non, déjà, ils sont morts, ils ne peuvent pas parler. Ensuite, l'insane, il va rentrer dans le coffre à Oudoubillah. Je dis, tout ce que je crois, moi, et dont je dois croire, c'est que s'il fait nuit chez moi, je ne regarde pas la fenêtre. S'il fait nuit, et qu'il est maintenant à peu près 3 heures du matin, Allah Ta'ala est descendu. Maintenant, qu'il fasse jour aux États-Unis ou là en Zimbabwe ou là au Soudan ou là, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est que s'il fait nuit chez moi et que c'est le dernier tiers, je jure par Allah Ta'ala le Tout-Puissant et que ma femme est divorcée, si ce n'est pas vrai, que Allah Ta'ala vient de descendre. C'est tout. Allah Ta'ala, il est 3 heures du matin, il vient de descendre. Khlas, c'est tout ce que je sais. C'est comme ça, Inch'Allah Ta'ala, le musulman, pour qu'il ne rentre pas dans l'Iwaswas, il va faire des calculs, il va ramener son ordinateur, calculatrice et son téléphone, il va faire des calculs, il va dire quand est-ce qu'il descend, il descend pas ici, en Australie il manque 20 minutes, en Algérie il est plus 10 minutes, et il va rentrer dans le shaitan, et il va dire, là j'arrête, je deviens kafir, a'oudou billah. Tfadal.
Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question est, si un kafir ou des koufars cause du tort à notre frère, fillah, en le tuant ou autre, doit-on le venger ou doit-on laisser cette affaire à Allah subhanahu wa ta'ala? Akhiran. Fadal Sheikh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, je conseille, naam, de laisser cette affaire à Allah subhanahu wa ta'ala, car on vit une situation où, yani, on n'est pas fort. On est, yani, comme on dit, mustadafoun. Naam. Et maintenant, quelqu'un, s'il va agir ainsi, il va se trouver dans de grandes fitnas, a'oudou billah. C'est pas seulement lui, on va l'emprisonner ou le tuer, mais c'est tout l'islam qui sera quoi? Qui sera, yani, touché de par le comportement de cette personne. Ensuite, il y a autre chose très importante. Quand quelqu'un tue quelqu'un a tué quelqu'un, est-ce que moi j'ai le droit de le tuer directement, même si je suis gouverneur musulman? Est-ce que j'ai le droit de le tuer directement? N'est-ce pas que ces tuteurs à lui, ce sont eux qui ont le droit de dire on le tue, ou bien on prend l'argent à sa place, ou bien on lui pardonne? Donc moi, où est la preuve que les tuteurs de celui qui vient de mourir, qu'ils veulent le tuer? Où est la preuve? Peut-être qu'ils veulent pardonner. Peut-être qu'ils veulent l'argent à la place. Donc je conseille à cette personne, inshallah ta'ala, de yani, remettre son affaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si par contre, yani, on vivait dans un état fort, et qu'il y avait la sharia, et que le gouverneur, yani, c'est le musulman qui commande. Là, dans ce cas, bien sûr, qu'on l'aurait pris, et qu'on l'aurait quoi? Et qu'on l'aurait emmené chez le gouverneur et chez le juge, etc. Mais ça n'empêche pas que ici dans le monde, si on est faible, et que si on vit avec des kofars, ça n'empêche pas aussi que, yani, de voir comment, yani, lui faire des problèmes. C'est pas le laisser comme ça, yani, libre. Yani, mais de voir, yani, qu'est-ce qu'on peut faire, yani, surtout si la justice, yani, elle juge avec ce qui est proche de la charia. Surtout si la justice juge avec quelque chose qui est proche de la charia. Tfadlal.
Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que si l'on fait une chose détestée par Allah, ceci est considéré comme un péché? Comme par exemple dormir sur le ventre. Et doit-on demander pardon à Allah Azza wa Jal? si on fait cette chose détestable, j'aimerais surtout savoir si dormir sur le ventre est considéré, car cela a déjà été demandé, mais je n'avais pas compris. Allah jazakoum pour tout ce que vous nous apportez, ainsi qu'aux admins. Tfadal cher.
Alaykoum salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, Cheikh Al-Albani a dit authentique, qu'il avait vu, ou plutôt il y a un sahabi, il y a un compagnon qui était en train de dormir sur son ventre. Le sahabi raconte, il a dit, quand j'ai senti quelqu'un me réveiller avec son pied, comme ça par exemple, dans le côté ou là dans le flanc. Il a dit, je me suis retourné, j'ai regardé, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était le prophète, j'ai trouvé, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a dit alors, هذه دجعتون يبغضها الله. Ceci, ou cette façon de dormir, est une position que Allah Ta'ala déteste. C'est une position que Allah Ta'ala déteste. Je dis à ma sœur, est-ce que tu voudrais faire une chose que Allah Ta'ala déteste? N'est-ce pas qu'on a été créé pour faire ce que les choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime? Nous, on doit faire des efforts pour faire tout ce que Allah ta'ala aime et tout ce qui ravit Allah subhanahu wa ta'ala aime et tout ce qui fait de sorte que Allah subhanahu wa ta'ala soit content de moi. C'est ce que je dois faire. Maintenant, si je fais une chose que Allah ta'ala n'aime pas et par contre qu'il déteste, donc ça veut dire que j'ai pas fait quelque chose de bien. Donc, si la personne a fait ça, qu'elle se retourne de l'autre côté, ou alors qu'elle dise astaghfirullah, et qu'elle essaie au maximum de ne pas faire cette position, inshallah ta'ala, car c'est une position que Allah ta'ala n'aime pas quand on dort. Voilà, inshallah ta'ala, pour la réponse. Fadlal.
Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Une femme ne parvient pas à pardonner sa belle famille de l'avoir accusée de ne pas être chaste le jour de son mariage, car elle n'a pas eu pardon de leur part et elle est traumatisée de ce qui s'est passé ce jour-là. Le jour de son mariage, on l'a accusée de ne pas être chaste. Tfadal cher.
Il n'y a pas de question, on n'a pas posé la question. Elle a seulement cité une chose, une situation qui est arrivée. Mais ça ne fait rien, je lui dis, attends, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que... Attends, qu'est-ce qu'elle dit? Ne parvient pas à pardonner à sa belle famille. Si elle ne parvient pas à pardonner, je lui dis, personne ne t'oblige à pardonner. Car quand quelqu'un te fait du tort, c'est à toi de choisir entre tu pardonnes et tu pardonnes pas. Si tu pardonnes, mashallah, tu auras des récompenses. Et si tu pardonnes pas, c'est ton droit. C'est ton droit, personne n'a le droit de t'obliger et te dire non, il faut pardonner. Donc, ça revient à toi, inshallah ta'ala. Si tu as la foi, masha'Allah, et capable de pardonner et d'accepter ce qu'ils ont fait, là tu auras beaucoup de hasanat. Et ce sera la meilleure chose, bien sûr. Ce sera la meilleure chose. Naam. Mais en leur montrant qu'ils se sont trompés et que vous avez fait une grande faute, mais pour Allah ta'ala, je vous pardonne. Dans ce cas, Allah subhanahu wa ta'ala va te remplir de hasanat. Mais si tu ne veux pas, tu es libre. Si tu ne veux pas, Allah ta'ala ne va pas dire pourquoi tu n'as pas pardonné. Non, tu es libre, bi'idhnillah ta'ala. Quoique...
Question suivante, question d'une sœur. Salam alaykoum, cher. Est-ce obligatoire que les mains touchent toute la tête lors du wudu? Cher, je prends bien soin d'essuyer ma tête de crainte que mon wudu ne soit pas valide. Est-ce toléré que les parties ne soient pas essuyées? Barakallahu fikoum. Fadda cher.
En fait, quand on essuie, on met ses deux mains comme ça de l'avant, du front, on va vers l'arrière et on revient. C'est tout. On ne descend pas jusqu'à où se terminent les cheveux. Mais on arrête là où se termine la tête, c'est-à-dire à la nuque. Et on revient, c'est tout. Et on ne fait pas d'ouest-ouest. On ne fait pas d'ouest-ouest. L'essentiel, c'est quoi? Je ne fais pas exprès, je dis, je vais toucher certaines parties et en laisser d'autres. Non, je passe ma main carrément comme ça, les deux, l'âme, jusqu'à la fin, et je les remets. Allez, je les fais revenir, c'est terminé, inchallah. Surtout, surtout, pense à une chose. Tes deux mains, quand elles vont partir du début vers la fin, l'âme, dis-toi, même si je n'ai pas touché, en faisant l'aller, en faisant le retour, inchallah, c'est sûr que je vais toucher les parties que j'ai laissées. Donc c'est presque impossible que quelqu'un, yani, qui fait yani, un aller-retour avec ses mains, qui ne touche pas toute sa tête. C'est presque yani, impossible. C'est pour cela que yani, il faut éviter de penser à ça, sinon inchallah ta'ala, ça rentre dans le ouswas. Fadlal.
Question suivante, question d'une sœur. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. On dit souvent qu'il est interdit à la femme d'être en dehors de son foyer après Salat al-Maghrib. Mais est-ce qu'il y a un hadith qui prouve cela, barakallahu fikoum? Tfadal, cher.
Il n'y a pas un hadith qui parle comme ça, clairement de ça. Il y a le hadith qui parle de la femme quand elle est en période de viduité et que son mari est mort, par exemple, que la nuit, elle doit la passer chez elle. Mais en général, quand les savants parlent de après le Maghreb, c'est pour dire que chez les musulmans, quand le Maghreb tombe, c'est quoi? C'est maintenant une autre vie qui va commencer. C'est pour cela que la femme doit être, après le Maghreb, elle doit être dans le foyer, en ce sens que, qu'est-ce qu'elle fait dehors en ce temps-là? Surtout si elle est seule, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que c'est le moment où les hommes vont sortir et pour aller boire, pour aller danser, pour aller faire mille et une choses. Donc elle, en étant dans sa maison, elle est préservée, bi'idhnillah ta'ala. Mais si elle est dehors après le Maghreb et qu'elle est avec son mahram ou avec son mari ou qu'elle est allée sortir pour acheter ou faire des commissions, je ne sais pas où est-ce qu'elle est allée, ce n'est pas interdit. Vous avez compris? Ce qu'elle a entendu dire ici, qu'est-ce qu'elle fait dehors après le Maghreb, ça veut dire dans le sens où elle est seule. Elle est seule après le Maghreb dans la rue, c'est très dangereux. C'est très dangereux pour elle. Sauf bien sûr si elle est devant la Mecque. Sinon c'est dangereux. Mais si elle est avec son Mahram, là c'est autre chose. Il n'y a rien qui interdise bi'idhnillah ta'ala. Fadlan, inchallah, la dernière question.
Non, donc la dernière question, inchallah, question d'une sœur. Assalamu alaikum, cher. Qu'Allah Azzawajal vous permet d'être avec les pieux et qu'Allah vous protège des fitaines d'ici-bas ainsi que tous les musulmans du monde et qu'Allah guide les égarés. Ma question chère, c'est de savoir quel est le droit de la femme vis-à-vis de son mari après la salat al-Isha. Car une sœur m'a dit que dans l'un de vos cours, vous aviez dit que la femme avait un droit sur son mari à partir du Isha. Quelles sont les preuves et l'explication réelle, Yachir, pour que je puisse informer mon mari qu'il ne prête pas attention à cette parole et qu'il me dit qu'il n'a pas à me dire s'il peut sortir ou non. Il est trop souvent avec ses frères fillers et cela se répercute sur mon comportement, énervement, etc. Barakallahu fikoum, Yachir, qu'Allah nous permette le plus haut degré du paradis. Tfadal, cher.
Salam barakatuh. En fait, c'est vrai que yani, la femme, nam, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique, il a dit wa inna li ahlika alayka al-haqa. Il a dit que ta famille a un droit sur toi. Et dans ce droit, rentre le fait yani, de lui donner aussi du temps. Car maintenant, si le frère va rester, la plupart sont en dehors, dans ce cas, je ne vois pas yani, pourquoi il s'est marié. Et surtout s'il va la laisser seule, et surtout si elle habite toute seule, et surtout si elle n'a pas d'enfants, ou alors les enfants sont vraiment à bas âge, et là où vraiment elle a besoin de compagnie, elle ne le trouve pas. Par contre, lui, il est là, mashallah, avec ses amis, des heures, alors que ses amis, il peut les voir pendant toute la journée. C'est pour cela que je conseille à chaque mâle de rentrer tôt le soir et être avec sa femme et ses enfants, c'est bi'idhnillahi ta'ala la meilleure compagnie. Car tu trouveras, tôt ou tard, tu trouveras que tous tes amis avec lesquels tu restais beaucoup de temps, etc., eux, dès qu'ils ont une occasion ou là, chacun va pour celui qui trouve une belle maison. Il déménage, l'autre échange d'amis à cause de je ne sais pas quoi, et ceci, cela. Tu trouves que tu as perdu tout ton temps, la plupart du temps seulement, à parler dans le vide, et alors que tu as perdu, au lieu d'apprendre à tes enfants, au lieu d'être avec eux. Ensuite, la femme, pourquoi ensuite on s'est marié avec elle aussi? Pourquoi la femme s'est mariée avec l'homme? C'est pour se seconder. C'est quand je suis dans la solitude, etc., je voudrais quelqu'un qui soit avec moi. Et ce quelqu'un, c'est qui? Si ce n'est pas mon mari ou si ce n'est pas ma femme. C'est qui donc? Je pense que chaque frère devrait méditer. Certes, je reste un peu de temps avec mes amis, mais disons, je dépasse pas, une demi-heure, une heure maximum. Quand je suis chez moi, avec ma femme, en train de lire, en train de discuter, même si on discute seulement de ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait, et ceci, cela, c'est mieux que de rester en train de parler. Car au moins, je lui tiens compagnie. Tenir compagnie, ça joue un très grand rôle, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, inshallah ta'ala, ça rentre dans le bon comportement, et ça rentre aussi le fait de donner le droit de la femme, qui ça rentre dans le droit aussi de lui donner le temps dont elle a besoin pour avancer, pour s'épanouir. Naam. Pour terminer, je dis Muslim, est-ce que tu te souviens que la fois passée dans le cours, quelqu'un qui avait posé la question, est-ce que les djinns, ils n'entendent pas ensuite les djinns? Tu te souviens de la question? Non. Est-ce que la personne qui a posé la question est là ou n'est pas là? Puisque la question n'a pas été reposée aujourd'hui. Est-ce qu'elle est là pour que je lui réponde, ou bien on laisse, inshallah ta'ala, la semaine? Elle n'est pas là. Parce donc ça ne sert à rien de répondre, puisque c'est elle, inshallah ta'ala, la plus intéressée. Voilà, inshallah ta'ala, on va se rencontrer, inshallah ta'ala, Yom al-Arbi'a, si Allah subhanahu wa ta'ala, il va rallonger dans notre vie. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.